Europe Matin Weekend.
Bonjour, bonjour, allez-vous bien ce matin? Une grosse partie du pays se réveille sous l'eau. On va bien sûr vous accompagner, reportage dans nos éditions. On sera également avec nos correspondants un peu partout. Valérie Darmon est avec nous évidemment. Bonjour Valérie.
Bonjour Thierry.
Ça continue ce matin en ce moment. Hein.
Oui, ça continue en ce moment sur un gros quart nord-est, mais ça va se calmer au fil de la matinée. Les vigilances vont bouger d'ici quelques minutes.
Voilà, on va suivre bien sûr naturellement cela avec vous Valérie. Vos rendez-vous du dimanche, Mathieu Noël à 6h20, 6h50 la balade du dimanche. On sera dans le Loiret. Puis en Corrèze, 7h10, je recevrai le chef étoilé Thierry Marx. Il ouvre son nouveau restaurant demain au premier étage de la Tour Eiffel à Paris et il milite pour notre souveraineté alimentaire. 7h20, Mathieu Alterman, il va corriger les fautes de français de nos chanteurs préférés. 7h35, le dernier journal de Roland Garros avant la finale homme cet après-midi à 15h. Et puis à 8h moins le quart, ça vous concerne, on va parler du gros problème des passeports et des cartes d'identité à faire refaire. Et puis on parlera également du contrôle technique à venir des deux roues. Voilà, vous savez tout. Dimanche 5 juin déjà. Soyez les bienvenus dans votre matinale week-end. C'est parti. Il est 6h. Bon réveil à tous.
Europe Matin Week-end. Thierry Dagiral.
Et c'est Lénaïque Monnier qui vous informe. Première édition. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Des averses de grêle, des orages, une vingtaine de départements toujours en vigilance orange. La France a passé une bonne partie de la nuit sous les eaux. Récits et témoignages dans ce journal.
Le risque de l'abstention plane sur les législatives. Pourquoi ce scrutin ne passionne pas? Nous verrons cela.
Dans ce journal également, un concert hors norme à Buckingham hier pour la reine Elisabeth et le roi de la terre battue Rafael Nadal en quête d'un 14e sacre à Roland-Garros.
Dans la prochaine demi-heure, le pronostic de Thierry Léger pour le Quintet à Chantilly. Aujourd'hui, Mélanie Gomez et Julia Vignali nous aideront à faire du sport sans se faire mal. Et puis, Mathieu Noël plaidera pour les job dating dans l'éducation. Mais d'abord donc la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
Encore 25 départements donc en alerte orange pour quelques minutes sans doute du Cantal à la Moselle pour des orages résiduels, tandis qu'ailleurs le calme est revenu sous des températures qui ont baissé doucement.
Allez, tant mieux, merci. Météo complète dans 7 minutes. Voilà, si vous vous réveillez en nous écoutant ce matin, allez jeter un œil à votre fenêtre. Il y a eu pas mal de dégâts cette nuit.
Oui, avec de la grêle, du vent, des orages et surtout beaucoup, beaucoup de pluie. Une nuit agitée sur de très nombreux départements. La vigilance orange, on vous le disait, est maintenue pour une vingtaine d'entre eux. Une vigilance d'ampleur exceptionnelle. Le récit de cette nuit agitée avec Guillaume Dominguez.
Oui, la pluie est tombée des Pyrénées jusqu'à la frontière belge. À Rouen, d'importantes averses orageuses ont inondé les rues en quelques minutes, faisant un mort. Une femme qui a été retrouvée sous sa voiture, prise au piège par un torrent d'eau. À Versailles, 60 cm de pluie ont également surpris les riverains du quartier Saint-Louis. Même constat à Poissy, où le maire de la commune, Carl Olive, dresse ce matin le premier bilan des dégâts.
Beaucoup de dégâts matériels sur une partie du département, je dirais une partie nord du département. On a été alerté par la préfecture avant-hier soir, nous prévenant d'un épisode très important d'orage tout au long de la journée. On a donc décidé de fermer les parcs et les jardins. Alors il y a eu beaucoup de trombes d'eau. On a écourté la fête de la jeunesse.
Autre annulation également, celle des concerts de la soirée du festival de musique Wheel of Green dans le bois de Vincennes, près de Paris. 40 000 spectateurs ont dû quitter les lieux, là aussi surpris par la violence de l'orage.
D'un coup, il y a la pluie qui est tombée alors qu'il faisait super chaud au départ et l'orage qui a commencé. Mais au début, tout allait bien. Voilà, personne ne s'affolait. Enfin, les gens cherchaient des kawés, voulaient des parapluies, ils essayaient de troquer aux autres.
Au total, plus de 700 interventions de pompiers ont eu lieu hier, selon Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur qui tiendra ce matin un point presse à 9h pour dresser le bilan de cet épisode orageux en France.
Oui, Météo France qui a levé la vigilance orage pour 22 départements, notamment en région parisienne, mais 28 autres, principalement dans le quart nord-est de la France, restent sous suivi. Le réseau SNCF connaît d'importantes perturbations en Picardie et en banlieue parisienne. Et ce matin, ce sont encore 5000 foyers qui restent privés d'électricité.
Allez, direction Londres à présent. Météo au beau fixe hein, pour le troisième jour du Jubilé de la Reine.
Voilà, et cette ambiance, hein, évidemment, au concert avec Queen qu'on entend maintenant, Duran Duran, Rod Stewart, Diana Ross. Il y avait une belle brochette d'artistes hier pour célébrer le règne de la Reine Elisabeth. Spectacle son et lumière sur la façade du palais de Buckingham. Il y avait foule. Anaïs Cordoba, notre correspondante à Londres, a partagé ce moment avec des touristes français.
Super, bah c'est génial, moi, c'est cette ferveur, les gens sont hyper contents, ils adorent leur reine, ils adorent leur pays. Puis là, c'était un concert génial, quoi. L'ambiance dans les jardins, les pique-niques, tout le monde est et de bonne humeur, et une vraie belle ambiance, quoi. Le spectacle de drone à la fin, moi j'en avais la chair de poule, quoi. Et pourtant, c'est pas mon pays, mais peut-être que dans une vie antérieure, j'étais anglais.
Très content parce qu'il y a une ferveur autour de l'arène, ça, c'est génial. Ça fait longtemps qu'on vient à Londres, on n'a jamais vécu ça. Il y a du monde, il y a de l'ambiance, enfin, les magasins, les drapeaux, les têtes de l'arène, un peu partout, c'est génial.
J'ai fait que le concert, mais c'était vraiment un super moment. Et c'est vrai de voir, même quand on est sorti du concert, que les gens se mettaient à chanter Dancing Queen, c'était un moment unique.
Voilà, ils sont contents, hein, ces touristes français qui sont venus en Angleterre. Il y a eu quelques temps forts, notamment quand le prince Charles a rendu un vibrant hommage à Sa Majesté, qui est aussi sa maman. Merci pour cette vie entière passée au service d'autrui. Voilà ce qu'elle a dit devant la foule. Aujourd'hui, c'est la fin des festivités avec une grande parade et peut-être une toute dernière apparition de la reine Elisabeth.
Retour en France à présent et la crainte de l'abstention qui refait surface à une semaine pile des législatives.
Oui, la plupart des instituts l'évaluent, cette abstention, à plusieurs points en dessous des 48%. Des sondages qui ne sont pas très encourageants par ailleurs pour le camp du président. Ils sont à la baisse pour la majorité. Voilà ce que nous dit ce matin le JDD. Si on ajoute à cela les dernières polémiques, les ministres menacés, on peut en conclure, nous dit notre confrères, que la majorité est en plein doute. Arthur Delaborde.
Un sprint final dans une forte indifférence. C'est en tout cas ce que montrent tous les sondages. Selon une enquête BVA, par exemple, les Français sont seulement 38% à suivre la campagne des législatives. Cela augure une très faible participation dimanche prochain. À ce stade, la plupart des instituts l'évaluent plusieurs points en dessous des 48,7% enregistrés au premier tour il y a 5 ans. Or, c'était déjà le niveau le plus bas atteint depuis le début de la 5e République. Cette fois-ci, pourtant, il y a un peu plus de suspense qu'en 2010. Mais jusqu'à présent, cette incertitude plus grande sur le résultat n'a pas créé d'engouement. Parmi les explications, le caractère atone de la campagne, retardé par l'annonce du gouvernement, puis parasité par les accusations de viol contre Damien Abad et le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Mais il y a aussi une vraie tendance de fond, un désintérêt croissant des Français pour les différents scrutins, comme ce fut le cas lors des régionales et même lors de la dernière présidentielle.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Alors on l'a constaté pendant ces grands week-ends prolongés, les touristes étrangers sont de retour en France.
Oui, à Paris, sur le littoral et sans doute demain en Normandie à l'occasion de l'anniversaire du débarquement. Des touristes qui viennent du monde entier pour visiter les célèbres plages des États-Unis, évidemment, de Grande-Bretagne aussi. Reportage de Mathieu Limongi.
Les drapeaux des alliés flottent dans chacune des rues. Le chant des mouettes se mélange au bruit des valises et dans le centre-ville, on parle anglais, mais cette année, l'accent est surtout britannique.
On a été très déçus de ne pas pouvoir venir depuis le Covid. On adore l'atmosphère, parcourir toute la côte. On participe aussi à toutes les festivités. C'est quelque chose que l'on adore. C'est un endroit incroyable.
Avant la pandémie, David venait ici chaque année depuis 20 ans. Un retour dont se félicitent bien sûr les commerçants.
Ils nous ont énormément manqué.
Marine gère des hébergements, mais aussi une boutique de souvenirs.
Ça fait 2 ans que tout est très très calme. Cette semaine, effectivement, les Britanniques sont en congé. En termes de chiffres, ça devrait bien s'annoncer.
Même son de cloche pour Clotilde, responsable d'un restaurant qui s'attend à une forte reprise. Sur la terrasse, son équipe dresse des tables, déjà toutes réservées.
C'est plein, c'est noir de monde. C'est le plus gros week-end de l'année. Vu qu'il y a beaucoup de monde, on peut faire 2 services. C'est du rush, on travaille plus.
À Bayeux, pour les commerçants comme pour la mairie, on espère une année record.
Voilà, 78e anniversaire du débarquement en Normandie et reportage signé Mathieu Limongi.
Allez, les sports à présent. Et cet après-midi, le roi Nadal va tenter de remporter son 14e titre à Roland-Garros.
Il affronte le jeune Norvégien Casper Ruud entre le taulier de la Porte d'Auteuil et l'outsider. Est-ce que vous avez un chouchou ?
Ben c'est Nadal, parce que je le suis depuis presque 20 ans. Et c'est toujours le favori ici à Roland-Garros. Quand on joue contre Nadal, c'est toujours très très compliqué de gagner.
Moi c'est Ruud, parce que Rafa, ça fait 13 fois qu'il gagne. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il laisse la relève. Et Ruud, il a fait un très bon tournoi depuis le début. Donc ce serait une belle victoire pour lui de remporter Roland.
Moi je prends Nadal, parce que comme ça, s'il gagne Roland, ça fait une dernière victoire et après genre il va arrêter. Donc je pense que ça serait bien qu'il finisse sur une victoire à Roland, voilà. Là où il a gagné.
Parce que c'est le roi de Roland-Garros. C'est le king. Vamos Nadal.
Voilà, propos recueillis par Colin Abgral. La finale, c'est à 15h. Le journal de Roland-Garros sur Europe 1, 7h30. On reviendra notamment sur la victoire de la jeune polonaise Iga Świątek hier chez les dames.
Pour qui, vous?
Ah, pour Nadal, à fond.
Ouais, allez Nadal. Oh, bah, 14e titre, au revoir, merci.
Vamos.
C'était le journal de Lénaïque Monnier, tout à l'heure. Bon, c'est important la météo ce matin, Valérie Darmon. Bonne nouvelle, hein, les vigilances ont toutes été levées.
Absolument, comme prévu, avec des orages tout de même ce matin, même si les vigilances vigilance n'y sont plus. Des Hauts-de-France au Grand Est, ces orages qui sont encore forts avec des pluies parfois intenses, de fortes rafales de vent. Toujours un risque de grêle, mais c'est vrai qu'au fil de notre matinée, l'activité orageuse va diminuer tout en laissant derrière elle de la Normandie à la Bourgogne, à la Franche-Comté, à l'Auvergne, à Rhône-Alpes, un ciel très nuageux avec des pluies ou des averses, mais avec beaucoup plus de calme évidemment. Sur le sud-ouest, après une matinée tristoune aussi, avec quelques bruines, voire même quelques ondées, les éclaircies se développent aussi à partir de la mi-journée, les averses ne se limitant plus qu'aux Pyrénées. Le soleil est déjà présent de la Loire-Atlantique aux Charentes ce matin, il va se maintenir évidemment cet après-midi sur le pourtour méditerranéen. RAS, là le temps est ensoleillé du matin au soir, exactement comme hier.
On regarde les températures.
Très contrastées, elles sont en baisse évidemment après le passage de cette grosse vague orageuse. 11 degrés à Brest à l'heure où on se parle, 13 à Rennes, 14 à Abbeville, 16 degrés à Tours et à Paris, 17 à Biarritz et à Bordeaux ainsi que Clermont-Ferrand, 19 à Nîmes, 20 à Lyon, 21 à Montpellier, 22 à Nice et 23 à Toulon. On voit que c'est beaucoup plus respirable.
Merci Valérie, à tout à l'heure. Allez, à suivre, bien fait pour vous. Comment faire du sport sans se faire mal? Et puis Mathieu Noël, évidemment. Mais avant cela, les pronostics pour le quintet du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, c'est un magnifique quintet qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly. Le prix du Jockey Club, réservé à l'élite des poulains âgés de 3 ans, et parmi les 15 partants, il est légitime d'accorder un très large crédit au numéro 2 à la Kim, l'un des 4 pensionnaires de Jean-Claude Rouget, qui a déjà inscrit son nom 4 fois au palmarès de cette course toujours très convoitée. Et il est vrai que ce à la Kim, qui reste sur 3 victoires consécutives, a assurément l'étoffe d'un vrai bon poulain, capable de s'adjuger les quelques 857 100 euros offerts aux gagnants de ce groupe 1. Son principal rival sera Ancien Rome, le numéro 12, prometteur quatrième en dernier lieu à Longchamp de la poule d'essai des poulains sur 1600 mètres et qui sera bien plus performant sur les 2100 mètres la distance d'un Jockey Club. Derrière ces deux priorités, je vous recommande les numéros 9 El Bodegon, qui lui aussi vaut quelques longueurs de mieux en terrain très souple voire lourd, 1 Vadeni, dont l'aptitude à cette piste de Chantilly est certaine, comme le prouve sa dernière victoire obtenu le 10 mai, et 4 Imperial Fighter, un poulain britannique très endurci, jamais plus loin que 5e lors de ses 6 tentatives. Enfin, les numéros 7 Modern Games, 10 Lasso et 5 Honesto compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, 12, 9, As, 4, 7, 10 et 5.
C'est bien noté, merci beaucoup Thierry Léger.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
6h12, Europe 1 parle de vous, de nous, avec les meilleurs moments de l'émission bien fait pour vous, tous les matins du lundi au vendredi. Mélanie Gomez et Julia Vignali recevaient cette semaine le kiné ostéo des sportifs Florian Patala-Goiti et le médecin du sport, le docteur Thomas Mamou. Question, comment faire du sport sans se faire mal?
Florian, je reviens vers vous. On a dit qu'on parlerait notamment de toutes ces blessures aujourd'hui qui peuvent nous tomber dessus. Moi, c'est clairement ça qui m'a arrêté, hein. Sinon, je serais une grande sportive aujourd'hui. D'ailleurs, quel est le constat? Les blessures liées au sport, elles sont vraiment très fréquentes. Je ne parle pas chez les athlètes qui sont autour de nous, mais chez monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment quelque chose de très fréquent.
Je pense que quand même le plus important, c'est déjà de rappeler les bénéfices du sport qui sont clairement supérieurs au fait de risque de se blesser. Et après, dans le sport, évidemment, il y a plus de chances de se blesser quand on fait du rugby à haut niveau que de la pétanque en loisir. Mais globalement, on tient des statistiques très précises. Par exemple, dans le sport de haut niveau, notre job de médecin, de kiné du sport, c'est de prévenir les blessures. Donc on sait exactement où les gens se blessent, à quel niveau, comment, pourquoi. Et on met en place des stratégies pour ça. Mais l'essentiel pour les gens, c'est de se rappeler, en gros, de savoir bien s'écouter et également d'y aller progressivement. C'est les deux gros secrets pour ne pas se faire mal.
Alors justement, moi, ma question, c'est généralement, les gens se font mal où le plus fréquemment? Je parle du sport amateur. Hein. On se fait mal où quand on fait du sport?
Alors, il y a plusieurs endroits, mais clairement, celui qui arrive en tête de file, en pole position, ça va être l'entorse de cheville.
Ah bah oui.
Voilà, classique.
Et quand?
Voilà.
Le dos, il prend pas souvent le dos, non?
Le dos, pas mal, mais moins que les articulations, les tendinites au niveau des genoux, par exemple, ou alors...
J'allais dire le genou, hein, parce que moi, j'avais une grande carrière de footing, notamment, à un moment donné, mais le genou m'a tué.
Bah oui, j'imagine, les croisés, hein, on connaît.
Les croisés, j'ai fait les croisés. Docteur Mamou, pourquoi on se blesse généralement au genou ou ailleurs? C'est quoi la fatigue, le stress? On choisit mal ses chaussures? Quelles sont les causes les plus fréquentes de blessures?
En fait, il y a plusieurs causes de blessures. Il y a déjà deux types de populations. Il y a monsieur, madame, tout le monde qui, quand se remet au sport, souvent, ils ne respectent pas certaines règles, qui sont notamment la progressivité de la reprise. Et puis des fois aussi, ils se donnent des objectifs qui sont beaucoup trop élevés par rapport à ses compétences.
Genre, je vais faire un marathon avant la fin de l'année, quoi.
Ouais. Genre, je vais faire un marathon et je me prépare une semaine avant. Ouais. Et ça, ça arrive tous les ans.
Ça risque pas de vous arriver, ça, Julien.
Non, mais j'adorerais faire un marathon, mais ça se prépare combien de temps avant, par exemple?
En général, on dit que c'est au moins 3 mois, voire un peu plus de préparation avant, ouais, pour vraiment respecter cette progressivité et en fait laisser le temps au corps de s'adapter à cet effort, de façon à pouvoir vivre le marathon dans de bonnes conditions et de prendre du plaisir.
Alors j'ai une question d'une amie, hein, qui s'appelle Mélissa et qui vous demande quels sont les meilleurs sports à pratiquer si on souffre d'une lombalgie, docteur. Parce que c'est vrai que c'est, quand on a mal au dos, c'est infernal, hein.
Ouais, le mal de dos, c'est vrai que c'est un grand problème en effet. En général, il y a deux éléments qui sont importants, qui sont le fait que souvent il y a une perte de mobilité et une perte de muscle, de masse musculaire qui n'arrive pas à soutenir le dos. Alors l'objectif des sports, ça va être justement d'améliorer ces deux éléments. Donc c'est vrai qu'on a la natation qui est reconnue comme étant le sport royal au niveau du dos.
Quand on n'aime pas nager, on fait quoi?
Voilà, le problème, c'est qu'il faut aussi trouver des sports avec lesquels on ait du plaisir.
Donc, est-ce que le gainage, c'est bon, ça? Parce qu'on me disait, moi, qu'il fallait renforcer comment on appelle ça, les trucs que j'ai pas là, les abdos, voilà, pour pas avoir mal au dos.
Ouais, le gainage, c'est bien. On va faire du renforcement musculaire, ça va être en effet très bien. Après, on a des sports tels que le pilates, le yoga, le tai chi, qui sont aussi des sports qui sont très, très conseillés quand on a mal au dos.
L'assurance maladie a un nouveau slogan qui dit contre le mal de dos, le meilleur des traitements, c'est le mouvement. Donc, ils ont raison. On guérira plus vite d'une lombalgie si on se met en mouvement, si on fait du sport?
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne guérit pas plus vite en faisant rien. Ah oui. Ça, il y a eu des études qui ont bien montré que des patients qui étaient arrêtés, qui ne faisaient plus rien, allongés toute la journée, n'étaient pas mieux plus rapidement que des patients qui reprenaient de l'activité. Donc, il n'y a aucune raison d'être en inactivité et de rester à rien faire.
On a une question de Karine sur Instagram pour vous. Mon fils de 12 ans fait énormément de sport, est toujours en activité, joue au foot 4 fois par semaine, s'entraîne à la maison quotidiennement sans se reposer. Je lui donne du magnésium pour éviter les blessures, ce qui fonctionne assez bien. Auriez-vous, bon, déjà, est-ce que vous validez ça et est-ce que vous auriez d'autres remèdes, conseils qu'il pourrait prendre pour éviter les blessures pour un enfant de 12 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller, docteur Mamou?
Le magnésium en soi, pas de problème. Hein. En effet, ça peut être indiqué, notamment c'est très indiqué quand on a des crampes. Souvent, on dit qu'il faut faire une cure de magnésium avec une bonne hydratation. Après, en fait, le meilleur conseil, je pense, c'est d'avoir un médecin du sport qui suit son enfant de 12 ans, justement, pour pouvoir l'accompagner dans sa préparation à son sport.
Oui, parce qu'un enfant qui fait quand même 4 fois par semaine, c'est déjà un enfant qui pratique à un niveau important, on est d'accord?
Ouais, c'est déjà une bonne pratique physique, donc ça, c'est déjà très bien. Et c'est vrai qu'en général, il y a tout un aspect de préparation physique, justement, pour faire le sport et pour éviter les blessures qu'il faut mettre en place, qui n'est pas toujours mis en place, notamment à cet âge-là, parce que...
Bah, on n'y pense pas pour les enfants. Je vais vous amener mon fils, je crois.
Avec plaisir.
Alors, docteur Mamou, le sport, on l'a vu, est souvent le meilleur des remèdes pour soulager des douleurs, mais c'est aussi une solution pour vivre mieux. Mais on oublie qu'il y a quand même d'autres facteurs à prendre en compte, notamment la marche. Est-ce qu'on recommande toujours les fameux 10 000 pas par jour? Et est-ce que si on fait les 10 000 pas, on n'est pas obligé de faire du sport?
Alors, les 10 000 pas par jour, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est en fait une publicité pour une entreprise qui vendait un podomètre. Une entreprise japonaise qui, en fait, avait sorti ça, c'était au moment des JO de Tokyo, mais pas les récents, ceux de 1964.
Et ça ne repose pas sur une étude, un truc
alors,
un peu sérieux?
Du coup, on a fait des études après. Ouais. Alors, en gros, ce qui en ressort, c'est qu'à moins de 2500 pas par jour, globalement, c'est très négatif.
Ça va pour vous, Julia, vous êtes un peu au-dessus quand même. Parfois, le dimanche, la dernière fois, j'avais fait 82 pas.
C'est oh mon Dieu.
82 pas, ça, c'est en effet un peu trop
c'est
léger.
Le lit, les toilettes. Les toilettes, le lit. Même pas les toilettes.
Hein. Ah non. C'est ça. Non, 82,
le pot de chambre, non, quand même pas, Julia. Bon, donc oui, 10 000, c'est quand même un bon objectif. Mais alors, si 000, déjà 8 000, c'est bien. Quoi.
10 000, c'est un bon objectif, mais après, on s'est rendu compte qu'au-delà de 7 500 pas, il n'y avait pas plus de bénéfices par rapport à la santé.
Ah, bon, je m'arrête à 7 000 alors.
7 500. Après, si vous avez, par exemple, un surpoids ou quoi, le fait de faire plus de pas, ça va augmenter la dépense. Donc, du coup, ça va vous permettre de perdre en effet.
Et si on fait, en gros, plus de 8 000 pas par jour, on peut s'abstenir de faire du sport? Est-ce qu'on peut considérer que c'est du sport?
Alors, on considère que c'est du sport. Après, ce n'est pas un sport qui est suffisant. Parce que quand vous faites de la marche, vous faites toujours le même mouvement, vous travaillez toujours les mêmes choses. Et donc, du coup, ce n'est pas suffisant. Il faut le compléter avec d'autres activités, de façon justement à avoir une prise en charge un peu globale.
Voilà, bien fait pour vous du lundi au vendredi de 11h à midi.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'info express à 6h18, Lénaïque Monnier.
Et toutes les vigilances oranges sont levées, mais la nuit a été agitée. Des orages, de la pluie, de la grêle. Une grande partie de la France a passé sa journée de samedi et la nuit sous un déluge. Une femme coincée sous sa voiture est décédée à Rouen. 5000 foyers restent ce matin encore privés d'électricité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu ce matin à 9h pour dresser un premier bilan. Les Français iront-ils voter pour les législatives à une semaine du premier tour? L'intérêt pour le scrutin ne décolle toujours pas et une abstention record et redouté. Sueur froide à l'Elysée, nous dit ce matin le JDD. Les récentes polémiques sèment le doute dans la majorité et cette question, combien de ministres seront élus et combien devront démissionner? Des explosions à Kiev au petit matin, c'est en tout cas ce qu'affirme le maire de la ville, Vitali Klitschko, dans un message sur Telegram. Deux quartiers sont concernés. Et puis la polonaise Swiatek n'a fait qu'une bouchée de l'américaine Coco Gauff en finale de Roland-Garros hier. Victoire 6-1, 6-3 en un peu plus d'une heure. Cet après-midi, Rafael Nadal affronte Casper Ruud pour une 14e victoire porte d'Auteuil.
À suivre sur Europe 1, bien sûr. Merci Lénaïque, à tout à l'heure. Dans un instant, Mathieu Noël, en avocat du recrutement en speed dating. Merci d'être avec nous sur Europe 1. À tout de suite.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h20, Mathieu Noël à présent. Maître Mathieu Noël qu'on réécoute le dimanche matin à 7h06. Mercredi dernier, il revenait sur le manque de profs. Comment recruter ?
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Ah voilà une initiative qui fait jaser pour faire face à la pénurie d'enseignants. L'Académie de Versailles recrute depuis lundi en mode speed dating. Tout le monde peut postuler, il faut juste avoir Bac plus 3 dans n'importe quel domaine. Maître, vous défendez l'Académie de Versailles face aux critiques. Pour vous, le job dating, ça marche ?
Mais bien sûr, monsieur Pavlenko. Alors déjà, quoi de mieux pour recruter les professeurs garants de la transmission de notre belle langue française qu'une opération baptisée job dating ? Le process est easy, on les accueille, on check leur background, on fait notre casting, on voit avec qui ça match, puis ceux avec qui on a un bon feeling, on les dispatch en fonction de leurs compétences.
Tiens,
machin, il a mis dans son CV qu'il aimait le foot, paf, prof de PS, faut réfléchir. Machine nous dit qu'elle lit Paolo Coelho, paf, prof de philo. Demain, si Madame Adadi postule, qui sait, peut-être qu'un poste de prof de français lui tend les bras. Tenez, Madame Adadi, je vous livre la question qu'on va poser ce matin aux candidats qui veulent devenir prof de lettres. Étude de texte, Alphonse Daudet, on va voir si vous connaissez les lettres de mon moulin. Parlez-nous un peu de la chèvre de Monsieur Seguin. C'était quoi son problème à Monsieur Seguin ?
Les chèvres l'excitaient plus que les femmes. Ouais, pauvre chèvre.
Mais bon, typiquement, la Madame Daddy n'aurait pas le job. On fait quand même gaffe. Hein. C'est pas open bar non plus, comme disait Molière. Bon,
alors, mais justement, en embauchant des gens sans qualification particulière, est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Enfin, quand même, l'enseignement fondamental, celui du français.
Ah, aucun risque. Pavlenko, pour une raison simple, c'est Bibi en personne qui supervise l'évaluation de français des candidats. Bibi, qui, je vous le rappelle, a découvert lundi qu'on disait une orque et pas un orque, comme dans le Seigneur des Anneaux. Autant vous dire que question français, les candidats vont être triés sur le Vélux. Parmi eux, soyez-en sûrs, nous recruterons uniquement la crème de la crème. Une maîtrise parfaite du français sera exigée, j'y veillerai personnellement moi-même. Si un candidat, par exemple au hasard, mettons, d'origine ukrainienne, se présente et me dit quelque chose comme...
Les implications sociales également que ça va t'avoir.
Ou pire, cet élève a fait pire. On l'a plus. Il est parti. Il est parti le son.
Michel Onfray qui sera ton micro ce matin. Au micro.
Oh oui, alors celui-ci, je peux rassurer les parents d'élèves, jamais il ne passera les mailles du filet. Jamais. La sélection des profs de maths aussi est rigoureuse. On a remplacé le traditionnel problème de l'eau du bain de Pierre-Paul Jacques par un exercice plus moderne. Sachant que Gérald Darmanin a déclaré qu'il y avait eu au Stade de France samedi soir 70% de faux billets. Combien de spectateurs devait-il y avoir mathématiquement au total aux abords du stade pour que ce que dit Darmanin ne soit pas une énorme connerie ? Question annexe, combien de jours Darmanin peut-il encore tenir sans être dégagé du ministère de l'Intérieur par Macron,
facile, hein.
Qui lui doit quand même savoir faire une règle de 3. Réponse A, 180 000 supporters, donc c'est pas possible. Réponse B, 3 jours. Oui, Nicolas, je vous vois enchaîner.
C'est la faute aux Anglais.
Non, c'est la faute des Anglais, éventuellement, mais pas aux Anglais. Attention.
D'autres qualités quand même peuvent faire la différence pour devenir enseignant.
Bien sûr, le sadomasochisme.
Ah ouais.
Enfin, surtout le masochisme. Pour se coltiner une classe en ZEP aujourd'hui, il vaut mieux avoir une petite expérience en club SM. Si vous aimez être rabaissé, humilié, si la pince à tétons est votre cam, si le baillon boule est votre ami...
Ouh yeah.
Calmez-vous. Oui. Si vous aimez vous faire insulter par Alexis Corbière et que même vous en redemandez...
Traite-moi de petite hyène.
Non, non, j'ai dit pas à l'antenne, Dimitri. Pendant la coupure pub, ok, mais pas à l'antenne. Allez, tiens, je te mets juste un petit coup, hein, mais pas plus.
Ah, oh là là, oui.
Mon avis, t'es prêt pour l'éducation nationale, Pavlenko.
Bon, je crains quand même que malgré cette plaidoirie très très convaincante...
Oui.
nos auditeurs ne soient pas encore tout à fait rassurés.
Ah, pourtant, il faut qu'ils s'habituent. Vu le nombre de professions dans lesquelles on manque de bras, si l'expérience avec les profs est concluante, nous étendrons le principe du job dating qui fait gagner un temps fou à tout le monde à d'autres secteurs en tension. Car il n'y a pas de raison. Si beaucoup se sentent capables de devenir profs simplement parce que durant le confinement, ils ont aidé leurs gosses à faire un problème de maths, alors pourquoi tous les parents qui ont donné avec succès du Doliprane à leur enfant malade ne deviendraient pas pédiatres ? Eh oui docteur, moi aussi quand je lui ai filé de Doliprane, la fièvre est tombée. Même résultat que vous, d'un côté 8 ans d'études, de l'autre 3 minutes sur Doctissimo.
Ben oui.
Est-ce que ça vous dirait, Dimitri, de devenir chirurgien dentiste ?
Oh, surtout pas.
Je sais qu'ici à Europe 1, vous avez une bonne situation. Anissa frimait à ce sujet auprès d'un invité l'autre jour durant la pub.
C'est pas mal, en plus ici on a 600 euros. Hein. Oui. Tous les ans on a 600 euros de chaque vacances.
Oui, oh, c'est formidable, mais réfléchissez, chirurgien dentiste, aujourd'hui c'est quoi ? Une petite formation de 12 heures et ça rapporte encore plus que journaliste. Tenez, je crois que Nico Bétou a une dent de sagesse qui le gêne. Vous êtes équipé ? Pour ma part, j'ai les ciseaux.
J'ai du sopalin là sur mon bureau.
Mais c'est plus qu'il en faut pour une extraction réussie. Allez Bétou, ouvrez grand la bouche et surtout détendez-vous. Ah bah si vous hurlez comme ça pour une malheureuse dent de sagesse, imaginez ce que vous allez recevoir votre avis d'imposition. Voilà. Allez venez.
Voilà pour les plaidoiries de Mathieu Noël du lundi au jeudi à 8h moins le quart sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et vous êtes de plus en plus nombreux sur notre page Facebook, ça nous fait très plaisir. Rejoignez-nous Europe Matin Weekend, dites-nous le temps chez vous ce matin, les orages, est-ce qu'ils sont passés, oui ou non. 6h30 sur Europe 1, l'information de ce dimanche matin, Clément Gouiz, bonjour Clément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Des scènes apocalyptiques en France, de violents orages de grêle ont éclaté tout au long de la journée d'hier. Un mois de pluie est tombé en quelques heures sur certaines régions. Conséquence, un mort et de nombreux dégâts ont été recensés en parlant début de ce journal.
Les hôpitaux lancent un SOS. Ils cherchent désespérément des soignants et demandent de meilleurs salaires. Ils se feront entendre dans la rue ce mardi partout en France.
Et puis nous reviendrons sur la victoire de Swiatek à Roland-Garros. La Polonaise a surclassé hier l'Américaine Goff.
Au sommaire de la prochaine demi-heure, 6h40, l'écrivain Didier Van Cauwelaert, invité de Philippe Legrand pour la sortie de son dernier livre Une vraie mère ou presque. À 7h10, la balade du dimanche de Marion Sauveur et Vanessa Zah. Nous irons sur la route des roses dans le Loiret. Et puis on va déguster du veau en Corrèze. Mais tout de suite, la tendance météo, c'est important ce matin, Valérie Darmon. Hein.
Oui, avec un retour au calme sur toutes les régions, toutes les vigilances ont été levées, même si le ciel tonne encore pour quelques heures le long des frontières belges. Retour des éclaircies partout ailleurs.
Météo complète dans 7 minutes. La France donc balayée par des fortes rafales de vent et des violents orages ces dernières heures.
Ouais, les dégâts sont importants, routes inondées, arbres arrachés, toitures cabossées, vitres cassées par les averses de grêlons, trafic SNCF perturbé. Ces orages ont fait une victime, une femme a été emportée par les eaux à Rouen. 5000 foyers sont toujours privés d'électricité et la région parisienne n'a pas été épargnée. Des chaussées ont été inondées et le festival Wheel of Green au Bois de Vincennes a dû annuler ses concerts prévus hier soir. 40 000 personnes ont dû être évacuées.
Et puis, notez que les festivaliers seront remboursés. Les concerts du jour vont pouvoir se dérouler normalement. On écoute.
On était sous des arbres, on a essayé de s'abriter quelque part, mais on ne pouvait même pas où aller. On a réussi à choper une petite place, mais là, on est trempés. Et en fait, on n'a fait que attendre. On vous a dit, là, en gros, il y avait un risque.
C'est un peu ingérable, il a plus des cordes, il y avait de la plupart du coup, ben là on rentre, mais on est trempés, enfin, il n'y avait pas vraiment de choses qui étaient prévues pour la pluie.
On est un peu dégoûté parce que le concert est annulé, on n'a pas trop de nouvelles, ça sera remboursé notamment.
Et ces intempéries ont touché également la ville de Poissy, proche de la capitale. Le maire de la ville, Carl Olive, s'y était préparé.
On a été alerté par la préfecture avant-hier soir, nous prévenant d'un épisode très important d'orage tout au long de la journée. On a donc décidé de fermer les parcs et les jardins. Alors, il y a eu beaucoup de trompes d'eau. On a écourté la fête de la jeunesse. On a décidé également à Poissy de mettre en place ce qu'on appelle le PCS, le plan communal de sauvegarde, et mettre en alerte à la fois la réserve citoyenne d'une centaine de personnes bénévoles et évidemment les pompiers, les policiers. Dans les Yvelines, vous avez 3000 pompiers qui étaient aux aguets depuis hier matin et qui ont fait 70 interventions. qui est important, hein, puisque c'est 10% par rapport à l'ensemble des interventions sur l'ensemble du territoire, comme l'a rappelé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il y a eu 700 sorties des pompiers sur la seule journée de samedi.
Des propos recueillis par Guillaume Dominguez. La première ministre Elisabeth Borne a adressé sur Twitter ses pensées à toutes les victimes de ces intempéries et a promis que le gouvernement serait là pour les territoires touchés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, prendra la parole ce matin à 9h pour faire un point sur la situation.
À présent, les soignants, ils en ont ras-le-bol. 9 organisations syndicales appellent à manifester mardi partout en France.
Objectif réclamé, des hausses de salaire et d'effectifs à quelques jours des élections législatives. La situation est critique dans de nombreux hôpitaux. Selon des chiffres de SAMU Urgences de France, au moins 120 services ont été obligés de limiter leur activité ou s'y préparent. À Nancy, par exemple, les urgences de la clinique privée de Gentilly ont été obligées de fermer 2 jours cette semaine, faute de médecins. Reportage de Mélina Fachin.
De mardi midi à jeudi 10h, les patients qui se rendaient au service des urgences de cette clinique trouvaient porte close. Une décision que Julien Belmain-Noël, le directeur des opérations, a dû prendre à contre-cœur.
C'est la première fois que ça arrive. Nous faisons face à des difficultés de recrutement de praticiens. Et l'été approchant, c'est encore plus compliqué. On travaille activement pour justement faire en sorte de ne pas avoir à reproduire cette fermeture.
Alors forcément, le seul autre service des urgences de Nancy, celui de l'hôpital public, redoutait un afflux massif de patients. Le professeur Tahar Chouyadé et ses collègues ont dû s'organiser en quelques heures.
Pour les 2 journées, on a rajouté 2 médecins et 2 infirmières de plus. Mais ça reste difficile. Actuellement, on a une augmentation de 7 à 9% des passages aux urgences.
Il en appelait donc aussi au bon sens des patients. Évitez de vous rendre pour tout et n'importe quoi aux urgences. Passez d'abord par votre médecin traitant ou par le SAMU. Nancy, Mélina Fachin, Europe 1.
Kiev visé par plusieurs explosions, c'est ce qu'affirme ce matin le maire de la ville. Elles ont eu lieu dans 2 quartiers de la capitale sans donner plus de précisions.
Allez, on va prendre la direction à présent de Nîmes où se déroule la traditionnelle feria de Nîmes.
Cette grande fête populaire du sud de la France célèbre ses 70 ans et pourrait cette année voir une affluence record alors que petits et grands se retrouvent autour des traditions locales et des bodegas. Reportage sur place, Victor Chabert.
Il est 18h, les antiques arènes nîmoises sont pleines à craquer. C'est la 2e corrida de la feria dans l'amphithéâtre romain aux pierres blanches. Les plus grands toreros du monde sont présents et la foule également. À Nîmes, la tauromachie est l'épicentre de la feria. Autour des arènes, dans les bars et les bodegas, au rythme des bandas, la fête bat son plein. Pour ce Nîmois, la feria de Nîmes, c'est l'occasion de se retrouver autour des traditions.
La feria de Nîmes, c'est avant tout un moment de fête avec les traditions qui se perdurent d'année en année. Et c'est un moment de convivialité où tout le monde se mélange, toutes les catégories socio-culturelles. On se retrouve aux arènes, on se retrouve dans les bodegas et on profite de ces quelques jours avant l'été, qui annoncent l'été, et voilà.
Et l'affluence pourrait être record. Plus d'1 million de personnes sont attendues dans la ville gardoise durant ces 5 jours.
Un reportage de Victor Chabert pour Europe 1.
Qui fait du bien. Sans surprise, le tennis Swiatek remporte son 2e Roland-Garros.
La Polonaise écrase tout depuis 3 mois sur le circuit féminin, vaincue 35 fois d'affilée. Elle a donc logiquement dominé hier l'Américaine Goff en 2-7, 6-1, 6-3. Voici sa réaction.
Bien sûr que je préfère cette fois-ci. C'est plus facile de rester concentré parce que quand le stade est quasiment vide, on s'entend presque soi-même penser. Alors que là, il y a le public qui vous soutient et quand vous êtes stressé à certains moments, on entend le public s'exprimer et donc on entend plus ses propres pensées. C'est plutôt sympa et c'est comme ça que j'ai utilisé le public de temps en temps. J'ai vu des drapeaux polonais et cela me montrait qu'il y avait des personnes qui me soutenaient, qui criaient mon nom et c'est une bonne sensation. Franchement, c'est difficile à décrire, mais cela m'a donné encore plus de puissance.
Propos recueillis par Cédric Chasseur.
Et puis bien sûr, cet après-midi 15h, la finale Nadal-Rude, elle est à suivre, cette finale en fil rouge à partir de 15h. Sur notre antenne Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et puis le journal de Roland-Garros, ce sera le dernier. Ce sera tout à l'heure à 7h35. C'était le journal de Clément Gouiz. À tout à l'heure, Clément. La météo, Valérie Darmon, la bonne nouvelle du matin, c'est que ces orages s'éloignent, hein, les vigilances également.
Et oui, Roland-Garros qui se jouera sous un ciel extrêmement calme, on n'entendra pas le tonnerre comme hier. Donc on a encore de forts orages ce matin qui éclatent sur la Bourgogne, la Franche-Comté, le Grand Est. Les orages les plus forts se concentrent de l'Alsace au Jura et à Rhône-Alpes où ils peuvent s'accompagner toujours de grêle, mais ils finissent par s'évacuer par les frontières belges et allemandes parce qu'ils sont moins alimentés en air chaud. C'est à cet air chaud, quand il a rencontré cet air froid, qu'on a dû ces orages d'hier, ces orages violents et virulents. De la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine, après un samedi donc orageux, vous retrouvez aussi un temps beaucoup plus calme, même quelques éclaircies. Sur les Hauts-de-France, la Normandie, le bassin parisien, le centre, après les orages de la fin de nuit, le ciel qui reste gris ce matin et humide pour se dégager aussi cet après-midi et donc s'assécher. De l'Occitanie à la Provence-Côte d'Azur, vous restez toujours à l'écart de sa dégradation et donc sous le soleil.
Les températures ont chuté. Hein.
Et oui, alors les minimales, entre 12 et 17 degrés en général, 10 à 11 sur l'ouest de la Bretagne, 17 à 22 près de la Méditerranée. Les maximales, encore 29 à 30 des plages du Roussillon, Languedoc, PACA et en Corse. Elles vont de 22 à 27 ailleurs et 17 à 22 près de la Manche. Ce n'était pas une chute brutale, c'était une baisse juste due aux orages.
Merci Valérie, à tout à l'heure. À 7h10, on partira bien sûr en balade avec Vanessa et Marion. On sera ce matin dans le Loiret, puis en Corrèze. Mais tout de suite, Philippe Legrand. Et tous les dimanches matin, un invité des archives, on regarde dans le rétro, une date, une histoire. Ce matin, les confidences de l'écrivain Didier Van Cauwelaert. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Direction la machine à remonter le temps. Bonjour Didier Van Cauwelaert.
Bonjour Philippe.
Vous êtes l'un des écrivains français les plus récompensés, les plus prolifiques, au moins un livre par an. Il paraît qu'à l'âge de 7 ans, vous saviez que vous seriez écrivain. Vous en avez fait le serment à votre père, dont on dit qu'il était un conteur né. Didier Van Cauwelaert, votre œuvre se lit, s'adapte, théâtre, télévision, cinéma. Elle fait aussi honneur à toute une lignée d'écrivains illustres, Romain Gary en tête. Il vous inspire des essais, des romans, un regard sur l'au-delà et beaucoup d'humour. Votre style est multiple, comme le montre votre nouveau livre, Une vraie mère ou presque. Ce matin, vous avez choisi de nous emmener loin. Le 7 juillet 1898, la première contravention de l'histoire, la jeune écrivaine Ornella Pacchioni, auteure de Londres à beau être une ville laide, revient sur les faits au micro d'Europe 1.
Le premier verdict pour excès de vitesse de l'histoire est attribué à la duchesse Anne Duchesse de Montemar le 7 juillet 1898 pour avoir roulé à 15 km/h au lieu de 12 dans le bois de Boulogne. Elle lance alors la mode du PV comme distinction sociale. L'excès de vitesse est synonyme d'argent et de liberté.
Et synonyme d'argent et de liberté, c'est ce que nous rappelle Ornella Pacchioni qui donne au fond les faits. Une femme, une contravention, le bois de Boulogne, on est à 15 km/h au lieu des 12 oui, réglementaires.
C'est une histoire du passé, c'est peut-être prémonitoire vu ce qui se passe en ce moment entre les automobiles. La contravention m'intéresse par rapport à mon roman, mais cette femme est quand même assez extraordinaire. Anne de Mortemar, Anne de Rochechouart de Mortemar, duchesse d'Uzès, ne s'est pas contentée d'avoir cette première contravention pour excès de vitesse. Comme l'automobile club à l'époque était réservé aux hommes, elle a créé un automobile club féminin. Et puis, elle a créé aussi la première association de femmes peintres et sculptrices.
Elle était engagée, Didier Van Cauwelaert, et contestataire à sa manière, d'une certaine manière.
De tout, à la fois. Elle a financé le général Boulanger en tant que légitimiste orléaniste. Et puis, elle a protégé, elle était très amie avec Louise Michel, et l'anarchiste Auguste Vaillant qui a... Elle avait arrêté exécutée, elle s'est occupée de sa fille, elle avait vraiment des coups de cœur, des coups au-delà de tout clivage politique, et c'était une vraie féministe avant que le terme existe.
Et il faut parler de son permis de conduire aussi, hein. Elle a montré un exemple, une
Alors,
voie,
elle a
là
été,
aussi.
Donc, elle a obtenu le premier permis de conduire féminin qui s'appelait certificat de capacité féminine, et 2 mois plus tard, elle obtient la première verbalisation à bord de sa Delahaye type 1.
Alors, les voitures vous inspirent. Cette date aussi, pourquoi l'avoir finalement choisie en dehors de votre livre qui est dans l'actualité ?
Bah, je trouvais ça bien de reparler de cette femme parce que tous ces exemples, parce qu'on a tendance à croire que c'était une duchesse, donc c'était simple pour elle. Pas du tout. Les combats de femmes, justement, avaient besoin de ces aides, en tout cas financièrement. Elle a vraiment aidé la cause beaucoup et aidé des femmes persécutées pour leur refus de rentrer dans le moule que souhaitaient les hommes.
Pionnière à sa façon, ouais. On disait engagée, femme terriblement libre aussi. Et dans cette date, on pense à quelques clichés, notamment d'autres femmes, pour être encore plus proche de nous. Je pense à cette photographie que vous avez en tête de Françoise Sagan, autre clin d'œil sur les routes de Normandie avec sa décapotable. Là, il y a aussi une sorte d'ivresse et d'envie d'être libre.
Oui, le vent de la liberté, les cheveux au vent, une voiture, et puis cette sorte paradoxalement de confiance en prenant des dangers au volant. Bon, c'est un peu embêtant quand il y a des gens qui roulent en face, mais c'est vrai que c'est s'en remettre un petit peu à la fois au destin tout en ayant confiance dans sa bonne étoile. C'est un peu ce qui caractérise ce genre de femmes et leur rapport avec le volant.
Alors là aussi, Didier Vaucouleurs, il faut le dire, ça ne sous-entend pas qu'il faut tout faire et n'importe quoi. Il y a aussi cette notion qui date de cette fin du 19e siècle. Partager la route, c'est la réglementer. Là aussi, ça fait partie des points sur lesquels il faut au fond s'entendre.
Oui, puis surtout avoir se mettre d'accord sur un code de la route, le diffuser. Mais c'est intéressant de voir que dès le début, la répression financière était à l'œuvre. Hein. C'est dès que l'automobile a été inventée, il a fallu. On s'est dit en même temps, ce sera un moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses.
Didier Vaucouleurs, vous conduisez vous-même, aimez la voiture. Celle qu'on annonce, une voiture un peu différente, hybride, vous êtes rentré dans cette époque qui est devant nous ?
Pas du tout, moi j'ai mes voitures ont mon âge en moyenne, donc j'aime les vieilles voitures artisanales qui sont parfaitement fiables et dans lesquelles on n'a pas besoin de sensations de vitesse excessive. J'aime l'effort au volant, puis j'aime le regard des gens face à des vieilles carrosseries artisanales. Ils sont très gentils avec vous, ils vous laissent des priorités auxquelles vous n'avez pas le droit. Vous savez, c'est tellement précieux un sourire aujourd'hui que lorsque vous êtes à bord d'une vieille voiture, que les gens vous sourient pour ça, ou même vous disent merci, bravo, ça ensoleille une partie de la journée.
Didier Vaucouleurs, dans votre nouveau livre « Une vraie mère » ou presque aux éditions Albin Michel, il y a plusieurs héros, héroïnes. La voiture en fait partie, c'est une turbo. Mettre en scène.
C'est une Renault Fuego turbo essence. C'est coupé un peu ringard des années 80. Tout de suite, dès la naissance, il a eu une image ringarde alors que c'était une voiture formidable, très fiable et très très puissante, qui a été une de mes premières voitures après le permis de conduire. Et je l'ai recyclée, si je puis dire, dans ce roman où elle a un rôle important parce que le narrateur vient de perdre sa mère et c'était la voiture de sa mère. Elle l'a bichonnée comme une Ferrari depuis 30 ans.
Et vous le dites vous-même d'ailleurs, dans les premières lignes, le décor est planté, le ton aussi, dès le début. En 3 mois, ma mère a perdu 11 points, elle n'a jamais conduit aussi mal que depuis qu'elle est morte.
Oui, parce qu'il a, il a conservé la voiture, elle lui avait demandé de continuer à la faire rouler, ce qu'il fait, mais il n'a pas encore changé la carte grise, il a toujours le nom de la mère, flash radar, contravention arrive au nom de la mère.
C'est votre héros
et
qui conduit.
Elle perd 2 points, oui, mais c'est sa mère qui perd 2 points. Alors, l'ironie dans la détresse, la tristesse qu'il traverse après à la mort de sa mère. L'ironie du destin, ces rallonges administratives que l'administration donne à la mémoire de sa mère. Évidemment, ça l'émeut et ça l'enchante. Deuxième excès de vitesse, la mère perd encore 2 points. Et là, il se dit, mais si ça continue, parce qu'il ne fait pas exprès.
Et la préfecture envoie ce courrier. Il faut immédiatement penser au stage de récupération de points.
Et il se dit, le jour où elle n'a plus de points, elle va recevoir une convocation à un stage de récupération. Qu'est-ce que je fais? J'engage une sosie. Eh bien, c'est une comédienne à la retraite qui entend ça dans l'EHPAD où il est allé voir sa tante, la sœur de sa mère décédée, et cette comédienne va décider de relever le défi.
Elle se propose.
Elle a connu la mère, elle récupère les affaires que sa sœur avait conservées, y compris la perruque que la mère portait après sa chimio.
Maladie, chimio.
Et elle sonne à la porte du narrateur, Il ouvre et il a devant lui le fantôme de sa mère en chair et en os qui lui dit « Je pense que je suis votre seule chance. » Ma chance, oui, de récupérer les points de votre mère.
Son ombre est là, en tout cas. Votre livre s'intitule...
Et j'avais envie d'éclairer son ombre. Et
aussi voilà. Lui rendre hommage, d'une certaine manière. Ouais. Hein, c'est ce qu'on sent. Il y a de l'amour aussi dans ce livre, Didier Van Kovelaert, Une vraie mère, ou presque, aux éditions Albin Michel. Vous avez choisi aujourd'hui de nous emmener très loin, le 7 juillet 1898. La première contravention de l'histoire avec la première conductrice, au fond, de l'histoire. Et on va se quitter avec cette chanson qui est dans votre playlist, là aussi, un clin d'œil à la route avec cette balade, la balade de Jim, signée Alain Souchon. À bientôt.
Merci.
Comme elle est partie, Jim a les nerfs. Jimmy boit du gin dans sa Chrysler. La presqu'île, le boulevard de la mer.
La balade de Jim en 1985, c'était le choix de Didier Van Kovelaert ce matin, l'invité de Philippe Legrand.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h49, l'essentiel de l'info de ce dimanche, Clément Gouise.
Plus aucun département en vigilance orange aux orages. Les intempéries de ces dernières heures ont fait une victime à Rouen et ont provoqué de nombreux dégâts sur une grande partie de la France. Arbres arrachés, trafic SNCF perturbé, routes inondées, 5000 foyers sont toujours privés d'électricité. La première ministre Elisabeth Borne a adressé sur Twitter ses pensées à toutes les victimes de ces intempéries et a promis que le gouvernement serait là pour les territoires touchés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, prendra la parole ce matin à 9h pour faire un point sur la situation. Kiev, visé par plusieurs explosions, c'est ce qu'affirme ce matin le maire de la ville. Elles ont eu lieu dans deux quartiers de la capitale, sans donner plus de précisions. Après Marine Le Pen, Jean-Michel Blanquer agressé, l'ancien ministre de l'Éducation nationale et candidat dans le Loiret a été malmené lors d'un tractage sur un marché hier. Deux enseignants d'un collège l'ont aspergé d'une mousse à raser. Ils ont été interpellés, il a déposé plainte. Place à la finale homme aujourd'hui. Raphaël Nadal va essayer d'entrer encore un peu plus dans l'histoire du tennis en tentant de remporter un 14e Roland-Garros, son 22e Grand Chelem. L'Espagnol sera opposé à Rude à 15h.
Merci Clément. À 7h, le prochain journal. On va revenir bien sûr sur les orages et ses conséquences, notamment à Chambord où étaient rassemblés 30 000 scouts. On sera à Londres pour la dernière journée du jubilé. Et puis bien sûr, Roland-Garros, on le disait, avec la finale homme à 15h. Mais avant cela, dans deux minutes, notre balade du dimanche avec Vanessa et Marion. C'est votre matinal week-end sur Europe 1. On parle de vous, on revient.
Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.
La balade du dimanche, Vanessa Zah, Marion Sauveur, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Vanessa va prendre la direction du Loiret pour suivre une route parfumée, la route de la rose.
Exactement, alors parfumée mais aussi poétique, botanique et même artistique, vous allez voir. C'est vrai qu'elle est méconnue, mais là vous allez avoir justement l'occasion de la découvrir. C'est le week-end prochain, donc ça s'organise, c'est le 11 et le 12 juin. Cette route, elle se fait en itinérance en fait sur 19 jardins. Au programme, il va y avoir des visites guidées, des garden games, des dégustations, des parcours musicaux, des concerts, des ateliers et même des séances de cinéma en plein air. Puis moi, ce que j'aime bien sur cette route, c'est que vous allez aussi pouvoir revivre des moments de l'histoire en croisant des grands personnages historiques.
Ouais. Pourquoi la rose spécifiquement dans le Loiret ?
Eh bien, en fait, c'est le berceau de la rose et des pépinières.
Ah ouais.
La rose, elle est née dès le Moyen-Âge, en fait, en forêt. Les glantiers des bois y étaient cueillis pour être greffés avant d'être transplantés dans le sol. Et dans le Loiret, bah, toutes les conditions étaient donc réunies. Il y avait le climat qui est exceptionnellement doux, il y a des terres fertiles, et puis une bonne circulation des graines et des plantes. Mmh. Et donc, c'est ce cocktail qui va faire que toutes les pépinières vont se multiplier. Les plus grands botanistes vont débarquer dans l'Orléanais et le Pitivray. Mmh. Et puis, il va y avoir des rosieristes de talent qui vont justement faire naître des roses de légende, comme André F., qui est le pape des roses, qui va aussi créer des roses vedettes. C'est Arnaud Parent, qui est le représentant des Jardins du Loiret, qui va nous les faire découvrir.
Allez,
il y a son
le premier rosier qu'il a mis au commerce, du nom de la grande vedette de l'époque, Sylvie Vartan. Un rosier rose, une très belle rose rose qui est encore un grand classique quoi, aujourd'hui chez les rosiers. Ouais. Il y a aussi beaucoup de rosiers qui ont été marrainés par des personnalités. Je pense à la variété Jardin de Valoir, dont Catherine Deneuve avait été la marraine. Au prestige de Seine-et-Marne, dont Annie Dupéré avait été la marraine. Voilà, certains rosiers associés à des personnalités ou à des sites aussi. Je pense à un rosier qui s'appelle Auberge de Lille, du nom du grand restaurant alsacien.
D'accord. Il en a créé beaucoup d'autres.
Alors, 33, exactement. Oui. En fait, il est très connu et reconnu pour ses roses anciennes, hein, toutes ces espèces qui avaient disparu. Alors, vous pouvez les admirer à Neuville-sur-Essonne, donc dans le grand jardin du Théâtre des Minuits. C'est un lieu de création culturelle qui est installé dans une ancienne ferme sur les ruines d'un château Renaissance. C'est très, très beau. Et aussi dans son jardin privé. Et Arnaud, que vous avez entendu, justement, fait vivre l'âme de cette roseraie conservatoire. Et il prend bien soin, justement, de la rose qui s'appelle Mademoiselle des Minuits, qu'Andrève avait créée en hommage aux comédiennes à l'époque.
Alors, ces 19 jardins, vous nous en conseillez quelques-uns en particulier?
Allez, Bellegarde, le premier village des roses de France, qui était déjà encensé au XVIIe siècle par la marquise de Montespan, la maîtresse dans l'art du parfum. Yèvre-le-Châtel, plus beau village de France, où partait en même temps sur les traces de Victor Hugo. Le château de la Bussière, que j'adore, moi, pour son potager, parce que c'est un mélange de légumes anciens et d'arbres fruitiers. Il y a même un couloir de courges suspendu. Et puis, pour les amoureux des ambiances romantico-anglaises, le jardin de Roquelin avec ses 450 variétés de roses anciennes. Allez, sur les bords du Loiret, le Moulin Saint-Julien. Sinon, à Orléans, la Cité des Roses. Une jolie chambre d'hôte, la Villa du Noir.
Mignonne, allons voir si la rose. Marion, on va en Corrèze.
Oui, on est le dimanche de la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'on mange traditionnellement à la Pentecôte?
Du veau.
Voilà, c'est la bonne saison puisque les vaches mettent bas à la fin de l'hiver et les veaux sont abattus au printemps. La Corrèze, la spécialité, et c'est la production de veaux de lait sous la mer. Un élevage particulier, comme nous l'explique l'éleveur Gilbert Delmont à Alassac.
C'est une production qui est ancestrale, puisque la Corrèze, c'est le premier département en veau sous la mer de France. On a des petites exploitations. C'est un veau qui ne sort pas dans les prés, qui est en bâtiment. Il est en case collective, élevé sur paille, donc pour avoir un confort maximum. Et qui tête sa mère deux fois par jour, matin et soir. Ah oui, chaque veau reconnaît sa mère et chaque mère reconnaît son veau. Oui, oui. Comme je dis, c'est le vrai veau.
Des veaux de moins de 68 jours qui terminent donc dans nos assiettes.
Et quelle est la spécificité de cette viande alors?
Alors, elle est blanche puisqu'ils ne sortent pas et ne se nourrissent que du lait de leur mère. Pas d'herbe ni de foin, sinon leur viande serait rouge. Gilbert Delmont élève uniquement des mères limousines et les veaux limousins ont donc la particularité d'avoir une chair beaucoup plus grasse. Et c'est ce gras persillé qui va apporter plus de goût à cette viande, une viande qui va être extrêmement tendre et juteuse.
Et alors comment on peut déguster la viande de veau?
Alors la viande de veau, c'est délicieux par exemple en ce moment à la plancha, mais en ce début juin, moi j'avais un petit peu envie de fraîcheur. Alors je vous propose de manger la viande de veau crue, soit en carpaccio, soit en tartare. Vous avez un tartare de veau sous les yeux. Voilà, je vous laisse déguster.
Il est bientôt 7h. Bon appétit.
Alors l'idéal, c'est de choisir pour un tartare une noix de veau ou un casier de veau. Bien frais, hein, bien sûr. Une fois que vous avez la viande, vous attendez surtout pas pour la cuisiner. Et avec sa tendreté, pas besoin de hacher la viande. Vous voyez, on la découpe au couteau. On découpe le morceau en fines tranches en lanière avant de détacher des petits cubes. Quelques oignons hachés avec la coriandre fraîche. Place à l'assaisonnement, huile d'olive, jus de citron vert, peu de piment haché, du gingembre pour donner un peu de peps. Et parce que le veau s'accorde très bien avec les produits de la mer, vous pouvez mettre par exemple des coques à l'intérieur pour apporter un petit peu de texture. On peut faire torréfier des noisettes aussi avant de les concasser. On mélange ensuite donc la viande avec les coques, les noisettes, la sauce relevée. On laisse reposer 30 minutes au frais et on forme ces petits tartares dans les assiettes avec des petites tartines de pain grillé.
Parfait.
Vous allez voir, pour dimanche midi, ça sera très sympathique.
Ben voilà, merci beaucoup Marion. On retrouve bien sûr les idées de Vanessa, les adresses et la recette de Marion sur europe1.fr, le podcast de la balade sous le nom Week-end Évasion. Bon dimanche à vous.
Bon dimanche.
Bon réveil sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Il est 7h.
Europe Matin Week-end. Thierry Dagiral.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Toute l'information avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Les orages, la grêle, nuages agités pour de nombreux Français.
Et pour 30 000 petits scouts en particulier, ils ont eu de la chance, ceci dit, ils sont passés de la tente au château de Chambord.
Un show spectaculaire et émouvant hier soir devant Buckingham Palace pour ce grand concert en hommage à la reine Elisabeth. La correspondance à suivre d'Anaïs Cordoba.
Et puis Raphaël Nadal sera-t-il cette année encore le roi de Roland-Garros? Attention à son adversaire Casper Ruud qui est un vrai spécialiste de terre battue.
Dans la prochaine demi-heure, Thierry Marx sera mon invité. Dans 10 minutes avec lui, nous parlerons bien sûr cuisine, mais également des difficultés en ce moment du secteur de la restauration. Et puis à 7h23, Mathieu Alterman nous parlera de ces chanteurs pas très doués pour la grammaire et l'orthographe. Mais avant cela, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Encore quelques orages du Grand Est à l'Auvergne et à Rhône-Alpes et belle amélioration dans l'Ouest malgré un ciel passagèrement menaçant.
Ça, c'est la bonne nouvelle de la matinée. À tout à l'heure, dans 7 minutes. Des averses de grêle, des orages, les vigilances sont donc levées, mais la nuit a laissé des traces.
Oui, hein. D'abord le réseau SNCF qui connaît encore d'importantes perturbations en Picardie et en banlieue parisienne. Et ce matin, 5000 foyers restent encore privés d'électricité. Des festivaliers tout près de Paris pour des concerts ont dû rentrer chez eux. Sans parler de ces quelques 30 000 scouts rassemblés à l'occasion de ce week-end de la Pentecôte. Ouais, ouais, ouais. Mis à l'abri des violents orages, dont un tiers à l'intérieur du château de Chambord lui-même. Bérangère Savelli, responsable de la communication des scouts unitaires de France.
Nous avons été prévenus qu'une alerte orage assez violente était en cours. Donc nous avons décidé d'évacuer les Jeannettes et les Louveteaux, les branches les plus jeunes, vers le château de Chambord. Ça s'est passé dans le calme, en chantant et en riant, comme tout scout qui rit et chante dans les difficultés. Et donc nous les avons accompagnés tranquillement jusqu'au château. C'est exceptionnel parce que de toute manière ce week-end devait être exceptionnel puisque un camp avec 30 000 scouts était de toute manière exceptionnel. La nature a voulu que encore plus d'exceptionnel s'ajoute à notre week-end.
Voilà, on imagine déjà les parties de cache-cache dans le château de Chambord. Bérangère Savelli, responsable de la communication des scouts de France.
Les naïcs, la politique à présent, les Français iront-ils voter dimanche prochain? La question est posée ce matin dans le JDD.
Oui, parce que l'abstention est déjà évaluée à 52-53%. Les sondages qui par ailleurs ne sont pas très encourageants pour le camp du président. Ils sont à la baisse pour la majorité, nous dit ce matin justement le journal du dimanche.
Et hier pourtant, Emmanuel Macron a tenté de donner le tempo.
Avec notamment la création du CNR version 2022, Conseil national de la refondation pour la mise en place des grands chantiers du quinquennat, le pouvoir d'achat, l'écologie, les retraites. Mais il faudra aussi s'attaquer au dossier brûlant de la santé. Il y a urgence, les professionnels alertent depuis des mois. Amine, par exemple, est un médecin marseillais. On le connaît sur les réseaux sociaux comme Doc Amine. Eh bien, il a décidé de quitter le privé pour aider l'hôpital public de la Timone cet été face au manque de personnel.
Normalement, en juillet, je ne suis pas censé travailler. J'avais pris un mois complet off. Mais là, vu la situation et puis... Il y a des urgences qui ferment, même dans des régions qui sont soi-disant dites bien dotées, c'est-à-dire Aix-en-Provence, Marseille, la côte. Moi, je ne peux pas rester insensible à ça, quoi. J'ai beaucoup réfléchi parce que d'un point de vue financier, c'est un sacrifice. D'un point de vue du confort de travail, c'est un sacrifice aussi. Mais bon, après, c'est pour aider les copains et pour aider la population. Je vais prendre sur moi et on va y aller, quoi. Je pense que c'est nécessaire que chacun mette un petit peu sa pierre à l'édifice. Par contre, qu'on soit clair, c'est pas une situation qui pourra durer. Parce qu'en fait, là, actuellement, tout repose sur la bonne volonté des soignants qui font des sacrifices pour que le système tienne. Ce n'est pas une solution à long terme. On peut pas toujours compter que sur la vocation des gens. Ce n'est pas une solution à long terme.
Un propos recueilli par Yasmina Katou pour Europe 1.
On rappelle ce grand mouvement national prévu mardi prochain. Direction Londres, à présent, le jubilé de la reine s'achève aujourd'hui.
Avec une ultime grande parade. En attendant, hier, on a vu une sacrée brochette de stars pour un grand concert devant Buckingham Palace. Il y avait Queen, Duran Duran, Rod Stewart, Diana Ross. Il y avait surtout beaucoup de monde. Anaïs Corba, notre correspondante à Londres, était sur place.
Le concert a à peine commencé, la foule est déjà en délire. Sur scène, Queen, le groupe de rock mythique, ouvre le spectacle. Puis, les têtes d'affiche se succèdent, acclamées par une foule en liesse. Alicia Keys, Andrea Bocelli, Elton John. Mais c'est l'interprétation de God Save the Queen qui a peut-être le plus ému les spectateurs, comme Georgina.
La reine ne va plus être avec nous encore très longtemps. Et donc on ne va plus chanter God Save the Queen. Quand elle va mourir, malheureusement, on aura God Save the King pour 4 générations. Donc c'est émouvant de le chanter.
Puis il y a eu ce discours d'hommage poignant du prince Charles. Votre Majesté, maman, merci d'avoir été là pour nous pendant 70 ans. Des mots qui ont touché de nombreux Anglais comme Louise.
Son discours était plein d'émotions, très sincère, c'était beau. C'est vraiment dommage que la reine n'a pas pu y assister.
Un concert féerique qui s'est achevé dans le ciel, au-dessus du palais, par un spectacle aérien de drones illuminés à couper le souffle. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et la parade aujourd'hui se déroulera de Westminster à Buckingham, comme le jour du couronnement de la reine, avec peut-être une toute dernière apparition de celle-ci, une des dernières fois, hein, sans doute.
Et puis à Paris, il y a un roi également, il s'appelle Raphaël Nadal.
Oui, le roi de la Porte d'Auteuil, de la Terre battue. Cet après-midi, il va essayer d'avoir une 14e couronne à Roland-Garros face au jeune Norvégien Casper Ruud, qui va vivre un moment incroyable. Axel Mech.
Son tout premier souvenir de tennis à la télévision, raconte Casper Ruud, c'était la première finale Porte d'Auteuil remportée par Raphaël Nadal en 2005. Le Norvégien avait 7 ans, l'Espagnol 19. Le temps a passé, Nadal est resté l'idole de Ruud. Je crois que j'ai vu toutes les finales où il a joué, où il a gagné, explique le natif d'Oslo. Cette fois-ci, j'y serai alors que j'ai vu d'autres joueurs à ma place, Federer, Djokovic, Thiem. Entraîné par son père, Christian, ancien top 50 mondial, Casper Ruud est un vrai terrien, un spécialiste de la terre battue. Et il est passé par l'académie de tennis de Raphaël Nadal au Baléares. C'est un bon gars, il a une bonne famille, explique le Mallorquin. Et bien sûr, sur le court, je le respecte pleinement. Si Nadal et Ruud se sont déjà entraînés ensemble à Majorque, ce sera leur premier affrontement en compétition. Une double première même pour Ruud, qui n'a jamais encore disputé de finale de Grand Chelem, quand Nadal a gagné les 13 qu'il a déjà joué à Roland-Garros.
Axel May, le journal de Roland-Garros à suivre à 7h30. On reviendra notamment sur la victoire d'Iga Świątek contre Coco Gauff.
Merci Lénaïque, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Valérie Darmon, la météo, ça s'arrange, hein, le calme revient, ça c'est la bonne nouvelle de la matinée, les températures baissent également.
Effectivement, c'est bien résumé. La perturbation liée à la dépression d'hier a atteint l'est du pays, elle y provoque encore quelques orages ce matin, un petit peu virulents parfois, notamment si vous êtes en Alsace, en Lorraine, en Bourgogne, en Franche-Comté, ainsi qu'en Rhône-Alpes. À l'arrière, le temps redevient très calme, même si ce n'est pas encore le retour du grand soleil, mais ce sera le retour des éclaircies, puisque le ciel est à l'alternance d'éclaircies entre les nuages menaçants cet après-midi, sauf entre Perpignan et Menton, où le soleil brille toute la journée et les températures sont effectivement en baisse sensible après le passage des orages, pardon. Et c'est maximal qui évolue entre 19 à Saint-Brieuc et toujours 34 sous le plein soleil à Nîmes et Avignon.
Oh, les chanceux. Merci Valérie. Restez avec nous. Il ouvre son nouveau restaurant demain. Au premier étage de la Tour Eiffel, ça fait 25 ans qu'il se bat pour le bien manger, pour les circuits courts, pour la bonne rémunération pour nos producteurs. Le chef étoilé Thierry Marx avec nous ce matin sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'interview actu de ce dimanche matin, 7h11. Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
Grand chef étoilé, bien sûr. Merci d'être avec nous. Alors que c'est le grand rush, j'imagine, puisque vous ouvrez demain, lundi, votre nouveau restaurant au premier étage de la Tour Eiffel. Madame Brasserie, ça sera quoi, une brasserie française en hauteur à 57 mètres?
C'est une brasserie française à 58 mètres, une brasserie qui n'a pas de conflit entre tradition et innovation. Tout le lieu a été complètement refait, ouais, pour qu'on ait une vision à 360 degrés et évidemment avec des circuits extrêmement courts pour faire une cuisine qui est faite sur place, il faut quand même le savoir.
On va y manger et quoi justement? Il y a quoi demain à la carte?
Alors demain à la carte, c'est très facile, on a une cuisine qui est très dans l'esprit du printemps, on a effectivement les pois cassés, les pois frais, mmh, et puis on a évidemment les pêches côtières, le maquereau, là, il y a un plat à base de maquereau, il y a de la volaille cul-oiseau qui vient de la région du Perche, qui est excellente, enfin, il y a des produits simples, agréables à manger, agréables à payer, parce que c'est le prix d'une jolie brasserie.
Justement, les prix, c'est quoi?
On est sur des menus à 45 euros, vous voyez, c'est tout ça est très, très acceptable.
Pour le midi, on est autour de 100 euros, je crois, pour le soir, hein, c'est ça?
Exactement. Le soir, c'est un temps un peu plus privilégié, avec un menu un peu plus long, et avec le temps, un peu plus de temps pour déguster différents mets.
Avec du circuit court, vous le disiez, c'est important, ça veut dire connaître le produit, savoir d'où il vient, et puis bien payer aussi les producteurs, bien sûr.
Bah, le circuit court, oui. D'abord, ça a été la création d'une guilde des artisans qui fournissent la Tour Eiffel, qui sont des artisans plutôt parisiens. Mmh. Et ensuite, on a un circuit extrêmement court autour de la Grande Ceinture de Paris sur le beurre, œuf, fromage, où on va se fournir en Ile-de-France. Et là, on a une qualité de produit, une connaissance de ces produits. On a même un paysan urbain, parce que on a rue Stendhal, le paysan urbain, qui nous amène pousses de salade et petites pousses, ah oui, d'herbes potagères. tous les deux jours au pied de la Tour Eiffel.
C'est votre combat, ça. C'est, vous parlez de restauration durable. C'est quoi précisément? Ça fait 25 ans que vous battez pour ça. Hein.
Bah, ça fait 25 ans que je me bats pour ça parce que j'entendais toujours parler du bio, du bio, du bio. Mmh. Mais est-ce qu'on pouvait nous parler du bon, du bon, du bon, quoi? Et pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un bon produit? Qu'est-ce que c'est que son impact social et que son impact environnemental? Mmh. Et bing, crac, on y est. On avait tous ceux qui militaient comme moi pour une alimentation saine et de qualité. Eh bien, se disent, ben maintenant, on a la fracture sociale et maintenant, on a l'alimentation à deux vitesses. Il y a ceux qui peuvent manger bio et pas les autres. Donc, je crois qu'il faut participer à cette grande transformation de notre alimentation, et c'est un combat politique, bien vraiment sûr, dans tout le sens honorable du terme, ouais, pour arriver à retrouver notre souveraineté alimentaire, nos circuits courts, et qu'on ait une alimentation bonne au global, pas simplement de façon parcellaire, des choses qui seraient bio et bonnes, et d'autres qui le seraient moins, parce qu'on n'aurait pas résisté à la théorie du low cost, qu'on nous impose depuis finalement 40 ans en disant « vous renoncez à la qualité, on vous fait des petits prix ». Mais ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre nos problèmes que nous avons autour de l'alimentation, de la souveraineté alimentaire et du revenu agricole.
Bien sûr.
Donc je pense qu'il faut trouver une variable d'ajustement pour le pouvoir d'achat des Français qu'il ne s'appuie pas sur l'alimentation. Parce que ce n'est pas comme quand on met de l'essence dans notre voiture. Là, la cuisine, c'est plaisir, bien-être, santé. C'est ça, notre alimentation. Donc, ça a un coût social extrêmement important.
Vous le disiez, c'est un vrai sujet politique. Vous avez l'oreille du président Macron à qui vous parlez régulièrement. Vous lui dites quoi? Vous lui dites quoi aussi à Marc Fesneau, au nouveau ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire? C'est un dossier important.
Je vous rassure et je rassure vos auditeurs. J'aimerais bien parler à l'oreille du président, mais ce n'est pas mon cas. Je l'ai croisé plusieurs fois et on a évoqué ces sujets. On a évoqué les sujets aussi de l'alimentation avec tous les différents ministres de l'Agriculture. Mais il faut aujourd'hui trouver des solutions, peut-être arrêter de chercher des coupables aussi, en voyant des coupables un petit peu partout, là où ils ne sont pas. Mais de se dire, il y a un enjeu qui est énorme, c'est un enjeu de souveraineté, de qualité. Tordons définitivement la théorie du low cost comme une théorie pas recevable, cette économie du renoncement, pour aller vers l'économie de la qualité et de commencer à repayer des choses à leur juste prix pour que toute la filière s'améliore. Et puis trouvons la variable d'ajustement du pouvoir d'achat ailleurs que dans rognant sur les marges agricoles.
Comment on fait? Parce qu'on le voit bien en ce moment avec le Covid, en pleine crise ukrainienne, on est dépendant des autres. C'est notre bétail qui trinque finalement. Comment on fait? Comment on change la donne?
Bien, il y a plusieurs points sur lesquels on peut appuyer. On peut commencer à travailler sur l'éducation. L'éducation est impliquée, le ministère concerné dans l'éducation des jeunes qui seront les mangeurs de demain et plus les consommateurs. C'est toute notre problématique, elle tourne autour de nos consommations et de notre surconsommation des choses qui fait qu'à un moment donné, on a surconsommé cette planète. Donc il faut redonner du sens à notre alimentation, commencer par la formation, travailler avec les agriculteurs. Regardez, il y a des associations qui marchent très bien, qui ont fait par exemple Bleu Blanc-Cœur, qui il y a 20 ans décide de travailler sur la qualité des sols, qualité des herbages, bien-être animal, et finalement on s'aperçoit que c'est eux qui ont une réponse dans la santé globale. Et leurs produits, on les trouve en grande surface, mais on les trouve aussi dans des épiceries chics à Paris. Donc vous voyez qu'on peut travailler sur cette alimentation de qualité pour tout le monde en redonnant du sens à cette économie de la qualité. Et ça, évidemment, il faut arrêter de dire que c'est de la faute des autres et se concentrer sur trouver des solutions plutôt que de trouver des coupables.
Et je rappelle, Thierry Mars, que vous publiez L'assiette santé, hein, c'est chez Flammarion, c'est coécrit avec le docteur Alexandra Dalu. Vous dites finalement, on peut bien manger, on peut manger équilibré, ça peut être bon et bon pour la santé, quoi.
Oui, et surtout, c'est qu'on a fait ce livre avec le docteur Dalu d'abord. La cuisine, c'est plaisir, bien-être, santé. Moi, je n'ai pas habilité à parler de santé, donc je ne m'y risque pas. Donc, j'ai interrogé ce médecin sur ce qui était intéressant de faire pour améliorer sa condition physique, sa condition mentale, tout ce qui va et ce qui est lié à l'alimentation. Et on voulait le faire pour des gens qui ont peu de moyens. Il y a des gens à qui on parle de régime, il y a des gens qui ont dans la nécessité de faire un régime parce qu'ils ont une pathologie à ça, mais ils n'ont pas le budget. Et c'est là où on peut donner des astuces, des conseils qui permettent de dire « mais attendez, ne vous cassez pas trop la tête, même si vous faites à manger et que vous considérez que vous faites mal la cuisine, elle sera toujours meilleure que ce que pourra vous servir l'industrie. » Et de commencer à redonner cette dynamique de se faire la cuisine pour finalement aller mieux. Et dans ce livre, il y a énormément de conseils pratico-pratiques qui vont permettre à des personnes qui sont des fois très éloignées de cet univers du régime ou de cet univers médical, mais qui ont conscience qu'il va falloir faire attention à ce plaisir de la table, ce bien-être à table, mais aussi protéger sa santé sur les excès de sucre, les excès de sel, et surtout aider aussi à la lutte contre la sédentarité, c'est-à-dire qu'il faut que le sport se réimplique beaucoup plus dans nos vies.
Autre sujet d'actualité, Thierry Marx, gros manque de main-d'œuvre dans la restauration, certains restaurants doivent fermer. Est-ce que ça vous inquiète ?
Ah non, mais là, c'est drôle que vous me posiez cette question. C'était ma réunion du moment.
Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en flux tendu et on a des débrayages, enfin pas des débrayages, des pertes de collaborateurs.
Y compris vous dans vos restaurants ?
Donc aujourd'hui, il y a un déficit de main-d'œuvre qui est colossal, mais colossal. Pour pas dire abyssal, mais il y a des points de vente qu'on n'arrive pas à réouvrir.
Mais c'est quoi ? C'est le métier qui n'attire plus ? Qu'est-ce qu'on fait pour revenir les jeunes ? On les paye mieux peut-être ?
Alors, je m'attendais à ce que vous me disiez ça. Oui, on les paye mieux. Encore faut-il pouvoir monter nos marges pour mieux les rémunérer. Donc tout ça, c'est un écosystème qui est lié aussi aux résultats de l'entreprise. Donc, mais je suis d'accord sur la rémunération et ce qu'il y a, il y a quand même eu un gros effort de fait. Je suis d'accord sur la replanification de tout ça, mais je suis aussi attristé de voir que la formation professionnelle ne répond pas toujours présente là où on en a besoin. On considère qu'on forme des gens, mais on ne les forme pas assez vite pour qu'ils intègrent assez vite et rapidement nos univers professionnels. Donc, il faut former plus vite, ce que nous faisons à Cuisine Mode d'Emploi. 12 semaines, en 12 semaines, vous arrivez au statut de commis de cuisine dans une maison. Il faut donner cette capacité de formation professionnelle à des personnes aussi qui étaient par moments éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi et qui cherchaient un projet métier.
Ouais.
Et aujourd'hui, croyez-moi, il y a des solutions d'épanouissement professionnel et il y a des évolutions professionnelles que vous pouvez avoir dans le métier d'hôtellerie et restauration qui sont quand même assez attractives, qu'on n'a pas su mettre en lumière, mais je peux vous assurer que vous pouvez réussir assez vite dans nos métiers si vous avez une force travail qui va avec.
Le chef étoilé, l'humaniste engagé Thierry Marx sur Europe 1 ce matin, on vous souhaite le meilleur pour Madame Brasserie. Votre nouveau restaurant, ça ouvre donc demain au premier étage de la Tour Eiffel. Grand merci à vous.
Merci, à bientôt.
Bon dimanche, merci.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'Info Express à 7h20, Léna Kimonier.
Avec cette nuit agitée pour de nombreux Français, même si les vigilances orange pour orages et pluies sont désormais toutes levées. Une grande partie de la France a passé la journée de samedi et la nuit sous un véritable déluge. 5000 foyers restent ce matin encore privés d'électricité. Le réseau SNCF est perturbé et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu ce matin à 9h pour dresser un premier bilan. Des explosions à Kiev ce matin, c'est en tout cas ce que continue d'affirmer le maire de la ville, Vitali Klitschko, dans un message sur Telegram. A priori, deux quartiers sont concernés et les pompiers tentent d'éteindre les feux. La finale de Roland-Garros cet après-midi, Rafael Nadal, un habitué des lieux avec ses 13 titres face à Casper Ruud, un novice. Europe 1 est la radio officielle du tournoi et vous fera vivre évidemment l'événement avec également le journal de Roland-Garros. C'est juste après les infos de 7h30.
Merci Lénaïque. Dans un instant, Mathieu Alterman, il va corriger toutes les fautes de français de nos chanteurs préférés. A tout de suite.
Matin week-end. Thierry Dagiral.
Il est un peu comme votre examinateur au bac, tatillon et sévère. Bonjour Mathieu Alterman.
Bonjour Thierry.
Alors Mathieu, vous avez sorti votre stylo rouge ce matin. Et vous dites, les chanteurs disent n'importe quoi.
Bon, alors, chère auditrice, auditeur, je vous vois devancer mon propos. Je ne parle pas de ce que les chanteurs racontent dans les interviews, bien qu'il y aurait souvent à dire là-dessus. J'évoquerai ce matin le contenu de leurs paroles, parfois non relu ou vérifié avant enregistrement. MC Solar, par exemple, dont son premier succès bouge de là, écoutez.
Continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, Arwa, je t'achète tes rap en dinar. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar.
Mais enfin, monsieur MC, le hip-hop est certes plus cool que la géographie, mais cette dernière aurait pu vous apprendre que Marrakech est au Maroc, où la monnaie, le dirham. Le dinar, c'est en Tunisie ou en Algérie. Alors, dans le genre fâché avec les géographies, oui, hein, j'ai aussi Gilbert Montagnier.
Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Mali.
Alors, Russie, sous l'équateur du Brésil, pourquoi pas. Entre Cuba et Manille, c'est un peu plus compliqué parce que c'est au-dessus de l'équateur. Alors, à moins qu'il ne s'agisse d'une résidence secondaire ou d'une deuxième proposition, ce qui reste du domaine de la supposition hasardeuse, quelqu'un peut indiquer le chemin, Gilbert?
on va dire que ces exemples ont sacrifié la raison pour la rime.
Bah, d'autres ont sacrifié la grammaire, sans faire exprès, tel Charles Aznavour dans Les plaisirs démodés. Répétez après moi, les derniers disques pop poussés au maximum, ça fait mal. Hein. Tout comme Eddie Mitchell dans Pas de Boogie Woogie.
Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi le soccer.
Reprenez avec moi et non reprenez avec moi. Charles et E.T., finalement, ils nous jouent les liaisons dangereuses. Là, il y a des exercices de bled qui se perdent. Alors, du bled au Becherel, il n'y a qu'un pas. J'ai aussi des artistes pour qui la conjugaison demeure une zone non explorée. Hein. Le rappeur Sniper, par exemple, dans La France.
Des frères béton. De façon, s'il n'y aurait pas de balance, il n'y aurait personne en prison.
Alors, répétez après moi, Miss Sniper, pas de conditionnel après le 6, et donc s'il n'y avait pas de balance. Le groupe Indochine semble également avoir quelques problèmes avec la concordance des temps, ainsi dans Le Baiser.
Ta peau se mouilla, elle aura comme un goût de lait, je te respire.
Alors, c'est fort bien de mépriser le présent, le passé simple et le futur, mais évitez donc de les utiliser dans la même phrase. On perd quelque peu le fil.
La concordance des temps, c'est ça. Bon, vous avez quand même des hobbies assez palpitants, je vous imagine. Avec un sourire de satisfaction à chaque erreur trouvée que vous notez, j'en suis sûr, sur un petit carnet.
Au stylo rouge, absolument. Il y a des paroles qui me mettent encore plus en transe. Hein. Ouais. Calogero et Grand Corps Malade dans L'ombre et la lumière. Alors, c'est une ombre, c'est une lumière, donc c'est laquelle des deux nous éclaire et pas lequel des deux. Niveau CM, hein, mes enfants. Et le merveilleux Christophe dans Señorita en 1974. Alors, si c'est moyennement élégant d'évoquer les cheveux devenus blancs de l'actrice Viviane Leigh, c'est surtout du grand n'importe quoi, puisqu'en 1974, elle est morte depuis 1967, et ses cheveux sont surtout en décomposition depuis 7 ans. Enfin, terminons par le taulier, le patron Johnny Hallyday, qui dans Les Chiens de paille semble avoir perdu toute notion du calendrier pour notre plus grand bonheur à tous. Bon dimanche.
Elle était seule dans la maison, c'était fin août, début juillet.
Le prof, Mathieu Alterman, merci Mathieu, à la semaine prochaine.
Au tableau.
Le chien dormait vers la rivière. La porte n'était pas fermée.
Allez, dans deux grosses minutes, le journal de 7h30. On revient sur ces inondations qui ont touché une large partie du pays. Et puis on sera à Londres avec notre correspondante Anaïs Cordoba qui suit depuis jeudi ce jubilé de la reine. Ne quittez pas, on revient.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et on voulait avec beaucoup de plaisir, vous nous dites quel temps il fait chez vous, si vous avez subi des inondations sur notre page Facebook Europe Matin Weekend. Il est 7h30 sur Europe 1 et le journal vous est présenté par Clément Gouze. Bonjour Clément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Un mort, 5000 foyers privés d'électricité, de nombreux dégâts, un trafic SNCF perturbé, c'est le bilan après les violents orages de Grêlons survenus ces dernières heures sur de nombreuses régions françaises. C'est un épisode d'une ampleur exceptionnelle qui a frappé tout le pays, Guillaume Dominguez.
Oui, la pluie est tombée des Pyrénées jusqu'à la frontière belge. À Rouen, d'importantes averses orageuses ont inondé les rues en quelques minutes, faisant un mort. Une femme qui a été retrouvée sous sa voiture, prise au piège par un torrent d'eau. À Versailles, 60 cm de pluie ont également surpris les riverains du quartier Saint-Louis. Même constat à Poissy, où le maire de la commune, Carl Olive, dresse ce matin le premier bilan des dégâts.
Beaucoup de dégâts matériels sur une partie du département, je dirais une partie nord du département. On a été alerté par la préfecture avant-hier soir, nous prévenant d'un épisode très important d'orage tout au long de la journée. On a donc décidé de fermer les parcs et les jardins. Alors, il y a eu beaucoup de trombes d'eau. On a écourté la fête de la jeunesse.
Autre annulation également, celle des concerts de la soirée du festival de musique Wheel of Green dans le bois de Vincennes, près de Paris. 40 000 spectateurs ont dû quitter les lieux, là aussi surpris par la violence de l'orage.
D'un coup, il y a la pluie qui est tombée alors qu'il faisait super chaud au départ et l'orage qui a commencé. Mais au début, tout allait bien. Voilà, personne ne s'affolait. Enfin, les gens cherchaient des kawés, voulaient des parapluies, ils essayaient de troquer aux autres.
Au total, plus de 700 interventions de pompiers ont eu lieu hier, selon Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur qui tiendra ce matin un point presse à 9h pour dresser le bilan de cet épisode orageux en France.
Voilà, Guillaume Dominguez, la vigilance orange aux orages a été levée sur l'ensemble de la France. 50 000 impacts de foudre sur la France en 24 heures. 4 heures. Et un point complet, bien sûr, à la fin de ce journal avec Valérie Darmon.
Et puis la Première ministre Elisabeth Borne a adressé sur Twitter ses pensées à toutes les victimes de ces intempéries et a promis que le gouvernement serait là pour les territoires touchés.
La campagne des législatives se poursuit. Les candidats sillonnent leur circonscription à une semaine, bien sûr, du premier tour.
Et c'était le cas hier de la Première ministre Elisabeth Borne dans la 6e circonscription du Calvados. Édouard Philippe est venu la soutenir à Vire. Jean-Luc Mélenchon, lui, était dans le Rhône. Le patron des Insoumis en a profité lors de sa réunion publique à Villeurbanne pour répondre aux propos tenus par Emmanuel Macron dans une interview. Il avait qualifié le programme de la NUP et du RN de désordre. Pour le chef de la NUP, hein, le désordre, c'est Emmanuel Macron. Plus rien ne marche. Il l'invite à débattre avec lui.
Et puis le RN mobilise ses troupes. Jordan Bardella a tenu hier une réunion publique à Cavaillon.
Et il a donc appelé hier ses électeurs à ne pas disperser leur voix dans le Vaucluse. Objectif 1, éviter de voter pour le parti d'Éric Zemmour et remporter toutes les circonscriptions du Vaucluse. Marine Le Pen tiendra, elle, son premier meeting de campagne aujourd'hui à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais.
Allez, direction Londres à présent, après le grand concert hier à Buckingham Palace, place au dernier jour des célébrations du jubilé de platine au Royaume-Uni.
Et pour clôturer ces 4 jours de fête, une immense parade aura lieu à Londres cet après-midi. Anaïs Cordoba, 10 000 personnes vont participer à ce défilé.
Oui, 10 000 militaires, artistes et bénévoles prendront part à ce défilé hors normes. Il partira de Westminster pour rejoindre le palais de Buckingham, la même route empruntée par la reine le jour de son couronnement. Il se déroulera en 4 étapes. Il y aura d'abord une grande parade militaire avec 1750 soldats et 200 chevaux. Puis un défilé carnavalesque représentera les transformations culturelles qui ont eu lieu sous le règne d'Elisabeth II. Le troisième tableau rendra hommage à la vie de la reine avec mise en scène de corgis et chevaux, des animaux qu'elle affectionne. L'acte final aura lieu devant le palais. Tout le programme n'est pas encore dévoilé, mais on s'attend à une performance du chanteur Ed Sheeran et à une interprétation de l'hymne national par plusieurs artistes. La présence de la reine n'est pas confirmée, mais les Britanniques espèrent certainement l'apercevoir une dernière fois au balcon de Buckingham.
Un reportage de notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba.
Et puis à suivre, bien sûr, le journal de Roland Garros dans 2 minutes. C'était le journal de Clément Gouise. Merci Clément. Alors le temps, la bonne nouvelle de la matinée, c'est qu'il n'y a plus de coups de tonnerre dans notre ciel.
Effectivement Thierry, les orages c'est presque fini, sauf sur un gros quart nord-est, depuis les Ardennes vers le Morvan, où vous n'êtes pas à l'abri du tonnerre jusque dans l'après-midi. Partout ailleurs, le ciel s'est déjà calmé, toutes les vigilances ont été levées à 6h ce matin. Le ciel redevient variable entre la Normandie et la Champagne, en passant par le bassin parisien, les Charentes et les Pays de la Loire, ainsi que le Bordelais, sont même déjà bien ensoleillés depuis le lever du soleil. Ces éclaircies qui vont gagner du terrain au fil de la journée en rentrant dans les terres. Les maximales vont osciller entre 19 à Lorient et 33 encore à Montpellier.
Merci Valérie, à tout à l'heure avec Roland. On se retrouve bien sûr à 8h moins le quart pour Ça vous concerne.
Europe 1, le journal de Roland Garros.
Et c'est notre dernier journal de Roland-Garros. Bonjour Cédric Chasseur.
Bonjour.
Alors avant d'évoquer l'alléchant programme du jour, démarrons avec ce qui s'est passé hier et la victoire dans le tableau féminin de la Polonaise Iga Swiatek.
Oui, succès express de la Tornade Swiatek. La numéro 1 mondiale l'emporte en battant en à peine une heure l'américaine de 18 ans Coco Gauff. 6-1-6-3, son deuxième titre ici à Roland-Garros. Le premier, c'était en 2020, presque sans public. Alors évidemment, elle apprécie à sa juste valeur ce succès devant un court Philippe Châtrier plein à craquer.
Bien sûr que je préfère cette fois-ci. C'est plus facile de rester concentré parce que quand le stade est quasiment vide, on s'entend presque soi-même penser. Alors que là, il y a le public qui vous soutient et quand vous êtes stressé à certains moments, on entend le public s'exprimer et donc on entend plus ses propres pensées. C'est plutôt sympa et c'est comme ça que j'ai utilisé le public de temps en temps. J'ai vu des drapeaux polonais et cela me montrait qu'il y avait des personnes qui me soutenaient, qui criaient mon nom et c'est une bonne sensation. Franchement, c'est difficile à décrire, mais cela m'a donné encore plus de puissance.
Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, vainqueur de ce tournoi de Roland-Garros, tout comme un jeune Français de 16 ans, Gabriel Debru, qui remporte lui le tournoi junior chez les garçons.
Cédric, c'est donc le dernier jour de Roland-Garros avec ce dimanche la très attendue finale chez les hommes, bien sûr.
Finale entre l'Espagnol de 36 ans, Rafael Nadal, 13 victoires ici, porte d'Auteuil, et le Norvégien Casper Ruud, 23 ans. Première finale dans un tournoi du Grand Chelem pour celui qui est issu de l'Académie de tennis de Rafael Nadal, l'idole du jeune Scandinave. Pourrait-il priver le Mallorquin d'un 14e titre ? En tout cas, Nadal, que l'on sait en délicatesse avec son corps depuis plusieurs années, est prêt à perdre en échange d'un nouveau pied. Écoutez.
Je préférerais perdre la finale. Un pied nouveau, ça me permettrait d'être heureux au quotidien. Gagner, c'est super, ça te remplit d'adrénaline et d'une joie momentanée. Mais la vie continue, et la vie c'est bien plus important. J'ai un futur qui m'attend après et j'aimerais pouvoir faire du sport amateur avec mes amis.
Rafael Nadal face à Casper Ruud, finale du tableau masculin à vivre en fil rouge sur Europe 1 à partir de 15h. Mais dès 11h30 sur le court Philippe Châtrier, il y aura la finale du double dames avec deux Françaises, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia, face à une paire américaine, Jessica Pegula et Coco Gauff, qui aura donc une deuxième chance de l'emporter ici à Roland-Garros.
Merci beaucoup Cédric Chasseur.
Roland-Garros 2022.
Europe 1, radio officielle.
7h38 sur Europe 1. C'est l'heure de la une du JDD avec son directeur de la rédaction. Bonjour Stéphane Albouy.
Bonjour Thierry.
Alors ce matin, à la une du JDD, une photo d'un président de la République soucieux. Hein.
Oui, c'est un Emmanuel Macron préoccupé que nous retrouvons ce matin en couverture de notre journal. Et notre titre, « Sueur froide à l'Élysée », illustre l'inquiétude qui gagne peu à peu les rangs de la majorité et certains proches du président. C'est le premier tour des législatives le week-end prochain qui provoque cette fébrilité. Il faut dire que les dernières semaines n'ont pas été particulièrement favorables au tout nouveau gouvernement. L'équipe d'Elisabeth Borne n'a pas eu le temps de s'installer, qu'elle était déjà confrontée aux accusations de violences sexuelles à l'encontre du ministre des Solidarités. Et lorsque cette première polémique semblait quelque peu s'estomper, le fiasco de la gestion de la finale de la Ligue des Champions est venu prendre le relais. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'alliance présidentielle n'a pas la certitude d'atteindre la majorité absolue à l'Assemblée et que la nouvelle Union populaire de Jean-Luc Mélenchon semble de son côté en pleine dynamique.
Quelles pourraient être alors les conséquences concrètes à l'issue des élections ?
Sans entrer dans des projections précises sur le nombre de députés, qui sont toujours difficiles à faire pour des législatives, ouais. L'absence d'une majorité absolue pour le camp du président compliquerait grandement la conduite de certaines réformes, à commencer évidemment par celle des retraites. Plus directement encore, nous expliquons dans notre dossier que l'issue de ces élections pourrait faire disparaître plusieurs ministres du gouvernement qui sont eux-mêmes candidats. L'Élysée a en effet rappelé qu'une défaite était synonyme d'éviction et plusieurs membres de l'équipe d'Elisabeth Borne sont en difficulté. Il y a parmi eux Clément Beaune, Stanislas Guérini et même Amélie de Montchalin qui se présente dans l'Essonne. Son échec serait un coup dur puisqu'elle est ministre de la Transition écologique qui est la priorité affichée de ce nouveau quinquennat.
Et c'est pour ça que le président est de nouveau sur tous les fronts depuis quelques jours.
Effectivement, en l'espace d'une semaine, Emmanuel Macron est allé à Cherbourg pour Paris Santé, à Marseille sur le thème de l'éducation et a donné une interview à la presse régionale pour rappeler ses priorités et charger ses adversaires. Et nous le racontons dans notre enquête, le président a lui-même sonné le tocsin jeudi en disant à ses équipes « c'est le moment de réveiller tout le monde ». C'est aussi une de ses marques de fabrique. Il fait le pari qu'il peut retourner à lui tout seul une situation à son avantage. Et l'histoire lui a souvent donné raison, jusqu'à présent en tout cas.
Merci beaucoup Stéphane Albouy, directeur de la rédaction du JDD. On regarde les autres unes de vos quotidiens ce matin. La France traversée par de violents orages, titre Ouest-France, avec une photo d'un magasin sous l'eau à Bayeux dans le Calvados. En une du Parisien aujourd'hui en France, phénoménal Nadal. Nadal, bien sûr, qui va jouer cet après-midi sa 14e finale sur la terre battue parisienne. Et puis, à lire en page intérieure, une interview de Damien. Il a 35 ans, il est l'une des 51 personnes qui ont la variole du singe. J'ai comme un sentiment de brûlure interne, dit-il. Enfin, vive la reine, titre le quotidien L'Équipe. On y voit bien sûr la polonaise Iga Swiatek embrasser la Coupe des Mousquetaires. C'est elle qui a remporté hier la finale dames pour la deuxième fois, porte d'Auteuil. Dans un instant, Valérie Darmon, Roland Pérez, on va parler de ce casse-tête hein, pour refaire nos passeports et pièces d'identité. Et on va vous donner plein de tuyaux. C'est votre matinale week-end, on parle de vous. A tout de suite.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Ça vous concerne votre rendez-vous pratique du dimanche dans votre matinale week-end. Valérie Darmon et Roland Pérez, heureux de vous retrouver les amis.
Bonjour,
bonjour à tous. Allez, on commence avec le dossier de la semaine. Les délais en France pour obtenir une nouvelle carte d'identité ou un passeport varient de 2 mois à 8 mois à l'approche des vacances. Eh bien, on est tenté de tout faire pour accélérer ces délais, parfois en risquant de se faire arnaquer. C'est le thème de votre dossier concernant, bien sûr, Valérie, avec une première question. À quoi est dû ce retard?
Eh bien, à la période Covid. L'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS, estime que pendant la crise sanitaire, 1,3 million de titres d'identité n'ont pas été demandés par rapport à la normale. Alors, pour pallier à cette grosse galère, le gouvernement a annoncé il y a quelques semaines la mise en place d'un plan d'urgence pour réduire ce délai, actuellement de 65 jours en moyenne contre 21 il y a 2 ans.
Oh,
et
fou.
Quand je dis galère, je pèse mes mots, parce que sans passeport, arriver à temps, on peut perdre ses réservations, devoir annuler tout un voyage, louper son stage d'études à l'étranger. Ce qui est arrivé à Lucas, étudiant en partance en août pour un stage obligatoire dans le cadre de son école de commerce en Corée du Sud.
On écoute.
J'ai appris que je devais avoir un passeport valide 2 mois après mon départ de Corée. Donc j'ai dû me déplacer au consulat pour faire mon passeport à Barcelone. Mais je me suis rendu compte que les délais étaient beaucoup trop longs. Donc j'ai dû partir à Belle-Île-en-Mer pour faire mon passeport. Où là, effectivement, les délais étaient un peu plus courts. Et donc j'ai réussi à me débrouiller pour avoir mon passeport au 30 juillet. Ça a été une grosse galère parce que du coup, j'ai dû prendre 2 billets d'avion pour faire aller-retour. J'ai dû louper une période de mon stage parce que du coup, j'ai dû m'absenter de Barcelone pour revenir. Enfin, ouais, grosse galère, quoi.
Ah, tout est bien qui finit bien, mais à quel prix? Alors moi, je vais vous raconter ma vie. J'ai mis trois mois pour trouver un rendez-vous. Et attention, parce que sur le site de la mairie, je suis tombé sur une fenêtre me proposant de pré-remplir mon dossier pour aller plus vite et obtenir un rendez-vous plus rapidement. Ça m'a coûté plus cher finalement que le timbre fiscal obligatoire et ça n'a pas été plus vite du tout.
D'accord, donc vous avez payé pour rien.
Exactement.
D'accord, ben, on vous comprend donc dans la galère. Voilà.
Attention, soyez vigilants.
Et oui, alors dans certaines communes, l'attente peut atteindre jusqu'à 3 mois, ne serait-ce que pour obtenir un rendez-vous. Si vous habitez Brest ou dans le golfe du Morbihan, il faut attendre 6 mois et plus pour obtenir le passeport.
Oh.
Donc c'est dire, le Bas-Rhin et l'Oise, Gironde et Pyrénées-Atlantiques, 5 mois. Le plan d'urgence gouvernemental doit permettre de démultiplier les créneaux de rendez-vous. 50 000 demandes supplémentaires pourraient être accueillis chaque semaine. Le ministère de l'Intérieur précise par ailleurs que les cartes nationales d'identité et les passeports expirés depuis moins de 5 ans seront valides pour passer les examens prévus au mois de juin, c'est-à-dire maintenant.
Ça c'est bien. Ok. Voilà donc qui risque de désengorger, on l'espère en tout cas, le système. Mais dans le cas de Lucas, même ces mesures n'auraient finalement servi à rien. Valérie, est-ce qu'on peut simplifier ces démarches pour gagner du temps?
Ah oui, il y a quelques petits trucs, bien sûr, pour éviter d'être piégé comme vous. Alors après, vite ma dose, il existe Vite mon passeport. C'est un site grand public, gratuit, qui repère les premiers rendez-vous disponibles pour renouveler votre passeport dans un rayon de 100 km. Et on reçoit ce matin le fondateur de la plateforme, Ludovic Dilijard, de Vite mon passeport. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
On a le droit de faire son passeport dans n'importe quelle mairie ou n'importe quelle préfecture, Ludovic Dilijard?
Oui, alors effectivement, on est dans un climat vraiment décentralisé. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de faire un rendez-vous dans votre mairie. Il se trouve que si vous trouvez une mairie autour de vous qui propose des délais plus rapides, vous pouvez tout à fait y aller.
Est-ce que vous informez aussi sur les procédures d'urgence?
Oui, tout à fait. Sur le site, vous pouvez trouver des informations sur les procédures d'urgence, donc notamment en cas de décès dans la famille, en cas de maladie ou besoin professionnel. Vous pouvez trouver sur Vite mon passeport.
Est-ce qu'il y a des créneaux où c'est plus facile d'accéder à des rendez-vous, un petit peu comme le contrôle technique dont je parlais la semaine dernière?
Oui, alors tout à fait. En fait, quand vous êtes sur vitemonpassport.fr, vous allez saisir le nom de votre ville et vous allez donc voir la première disponibilité dans votre ville, mais aussi dans toutes les villes alentour, dans environ 100 km.
Ouais.
Donc vous pouvez tout à fait, on imagine s'il y a eu une annulation, mettons, vous pouvez trouver facilement
en
un
profiter.
Rendez-vous.
D'accord. Merci à vous Ludovic Dilijard. Vous êtes le fondateur de vitemonpassport.fr. Rapidement Valérie, les mairies mettent-elles en place de leur côté des solutions?
Oui, à Châteauroux par exemple, l'arrivée d'un appareil prêté par la préfecture de l'Indre chargé de relever les empreintes a permis de raccourcir les délais.
Merci beaucoup Valérie, dossier très important, très concernant, c'est un vrai casse-tête en ce moment en effet. Dans un instant, les questions pour Roland, on parle de quoi ce matin Roland?
Notamment du nouveau contrôle technique pour les deux roues, ça va faire grincer les dents.
Ah, ça c'est vrai, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et 8h moins 10, l'Info Express, Clément Gouise.
Météo France lève la vigilance orange aux orages sur l'ensemble de la France. Les intempéries de ces dernières heures ont fait une victime à Rouen et ont provoqué de nombreux dégâts. Arbres arrachés, toitures cabossées, vitres cassées par les averses de grêlons, trafic SNCF perturbé, routes inondées. 5000 foyers sont toujours privés d'électricité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, prendra la parole ce matin à 9h pour faire un point sur la situation. Kiev, visé par plusieurs explosions, c'est ce qu'affirme ce matin le maire de la ville. Elles ont eu lieu dans deux quartiers de la capitale sans donner plus de précisions. Mbappé reste à l'infirmerie, le champion du monde est forfait pour affronter demain la Croatie. Il souffre du genou, le Parisien restera pour l'ensemble du rassemblement. Par contre, Varane a quitté les Bleus, le Mancunien souffre de la cuisse. Il est remplacé par Ibrahima Konaté. Place à la finale aujourd'hui, Rafael Nadal va essayer d'entrer encore un peu plus dans l'histoire du tennis en tentant de remporter un 14e Roland-Garros, son 22e Grand Chelem. L'Espagnol sera opposé à Rude à 15h. Puis on aura un œil également sur la finale double féminin. Le duo français Mladenovic-Garcia affronte les Américaines Goff et Pegula à 11h30.
Merci Clément. Dans un instant, toutes les questions pour Roland. On va parler notamment du contrôle technique pour les deux roues. À tout de suite.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Ça vous concerne la deuxième partie avec Valérie Darmon et avec Roland Pérez. Et après le dossier, donc les questions à notre avocat, Roland, avec une première question de droit et d'actualité, ce sont les chèques vacances à destination des jeunes qui viennent d'être mis en place. Qui peut en bénéficier et quel est son montant ?
Ah bah c'est une très bonne nouvelle. Hein. C'est l'Agence nationale pour les chèques vacances qui est en charge de mettre en place cette aide financière maximale de 250 euros. Ça concerne tous les jeunes de 18 à 25 ans qui vont recevoir cette aide destinée à compléter justement leur budget de vacances. Ça peut être à la mer, ça peut être à la montagne, partout en France. En fait, il y a une sélection de séjours qui est déjà négociée par cette agence, dont les prix donc sont déjà bien arrêtés. Et puis, l'opération a pour nom départ 18-25. C'est donc fini foutu pour nous, vous avez compris, oui, Thierry et Valérie. Hein.
Pour en bénéficier... il suffit d'avoir entre 18 et 25 ans.
Il ne faut pas exagérer quand même. Ouais. Il y a quand même d'autres conditions. J'imagine. Parce qu'autrement, il y aurait 9 millions ouais. de personnes qui pourraient y prétendre. C'est ouais. quasiment 14% de la population. C'est pour ça que les conditions sont un peu restreintes. Alors, c'est les boursiers, ceux qui sont en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ceux qui sont inscrits dans une école dite de la deuxième chance. D'ailleurs, ce sera bien qu'on parle un jour de cette école dite de la deuxième chance. Ça peut être aussi les volontaires en service civique ou ayant terminé depuis moins d'un an, ceux qui sont dans un parcours d'accompagnement à Pôle emploi. Et puis ceux, évidemment, qui ont des revenus inférieur à 17 280 euros ou s'ils sont rattachés à leurs parents, eh bien on prendra en compte les revenus des parents.
Valérie ?
Alors vous dites, Roland, que pour en bénéficier, il faut s'inscrire à des séjours d'ores et déjà proposés par l'Agence nationale des chèques vacances. Mais généralement, à cet âge-là, on part avec ses copains, lesquels ne sont pas tous dans la même situation.
Vous avez de jolis souvenirs, j'imagine, Valérie. Alors c'est pour cela, d'ailleurs, que les copains et les petits amis pourront partir avec ceux ou celles qui recevront ce chèque vacances et ils vont bénéficier finalement des prix accessibles.
Alors, deuxième question, Roland, qui va faire grincer des dents, et moi le premier, je vous avoue, hein, puisqu'il est question du nouveau contrôle technique pour les deux roues. C'est ouais. prévu pour quand alors ?
Alors en fait, c'est pas nouveau, figurez-vous, c'est une directive européenne de 2014, mais on ne l'avait pas mis encore, on ne l'avait pas intégré en France, ouais, et ça doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Mais donc là, on a jusqu'au 1er octobre en fait pour se mettre en conformité. Ouais. Donc les deux roues, les trois roues, les quadricycles motorisés, donc autant dire toutes les motos, les scooters et les mobylettes sont concernés.
Mais quid des voitures sans permis qui échappent généralement au contrôle technique, Roland ?
Ouais, oui, bah là, ils vont plus y échapper du tout parce que les petites voiturettes dites comme ça, sans permis, vont devoir s'y soumettre également.
Et Roland, ces contrôles vont s'effectuer à quelle cadence ?
Comme pour les voitures, c'est-à-dire dans les 6 mois du 4e anniversaire de la première mise en circulation, puis renouveler tous les 2 ans.
Bon, voilà, comment trouver de l'argent ? merci Roland. Il nous reste une minute pour parler des déductions fiscales pour les dons faits à des associations. On continue actuellement à déclarer, bien sûr, ces impôts. Rappelez-nous comment ça marche.
Oui, donc c'est important. Les dons faits à des associations caritatives ou d'intérêt général ou encore d'utilité publique donnent droit, je le rappelle, à une réduction d'impôt égale à 66% du total du versement des dons, dans la limite toutefois de 20%. Alors, vous savez, sur la version papier, il y a une case, c'est la case 7UF. Là, vous allez sur cette case pour y inscrire le montant des versements. Et ensuite, si vous allez sur une version en ligne, ce qui est 90% aujourd'hui, c'est à l'étape 3 de la déclaration, en sélectionnant la case réduction et crédit d'impôt et ensuite case charge. Alors, j'ai encore un mot, Thierry. Juste,
allez-y,
dans plusieurs villes de France, aujourd'hui, il y a une association qui qui s'appelle Imagine for Margot, qui vient en aide aux enfants atteints du cancer, organise un rallye qui s'appelle le rallye dit du cœur, qui est organisé dans plusieurs villes de France et où des pilotes de voitures de course et de collection prennent comme copilotes des enfants malades qui oublient alors le temps du circuit leur maladie. La prochaine opération aura lieu le 18 juin prochain. C'est Concilio Immobilier qui œuvre notamment à la promotion de cette initiative et on peut aider donc au financement de cette opération en allant sur le site lerallyeducoeur.com.
Merci beaucoup à vous deux. Vos questions à Roland et à Valérie sur notre page Facebook, bien sûr, Europe Matin Weekend. Tiens, on parlait du contrôle technique pour les deux roues.
Allez.
Secret du cœur, je n'ai besoin de personne à Harley Davidson.
Oh, j'adore, moi j'ai pas.
Bon, dimanche à vous deux, mettez le casque.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson.
C'était en 1968. À suivre Isabelle Moreau et l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. À tout de suite.